Ah, c'est ce qu'il faut, la technologie. Bonsoir à tous, Rodeshtov. Merci encore à Jérémy Verhévy d'être venu avec nous ce soir. Et comme on l'a dit, dans une ambiance qui est plus intime, plus détendue que les autres fois. Bah, au Hachem, au Centre Lab, on sait faire des grandes choses. Mais aussi, parfois, il faut savoir un petit peu se retrouver entre amis, en famille, un petit peu pour pouvoir plus profiter et pouvoir absorber tout ce que on a à recevoir de nos intervenants. Et vraiment, grâce à Dieu, on a fait la première conférence à Google, la deuxième conférence à WeWork, les grosses conférences encore aujourd'hui. Toutes les semaines, on me reparle encore de ces conférences. Donc, j'en profite pour remercier Jérémy du temps qu'il nous prend parce que, comme on dit, Blénara, Jérémy est monsieur très occupé. Il se lève.
Ouais.
Voilà, exactement. Il n'y a pas besoin de l'appeler pour le réveiller pour le minyan de 7 heures, non?
Je suis rentré à la
Voilà.
maison
Et je suis
déjà.
rentré à la maison après plusieurs heures d'études. Donc, en tout cas, je ne le présente plus. Je vais tout de suite parler. Mais merci à tous d'être venus et on parlera après la soirée. Jérémy, à toi.
Merci à tous d'être venus. Comme disait le fait qu'on soit pas très nombreux va nous permettre aussi d'avoir des échanges, j'espère. Donc n'hésitez pas si vous avez effectivement des commentaires sur ce que je vais dire et des questions. Je pense qu'on va attendre un tout petit peu, on va attendre un peu, genre quelque chose comme une demi-heure avant de prendre des questions pour que vous compreniez un peu le sens dans lequel je veux aller. Et après, en tout cas, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on ait vraiment une conversation super interactive. Je me présente en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai fondé ma première entreprise à 19 ans. Avant, j'étais journaliste quand j'étais encore au lycée, journaliste informatique. À 21 ans, j'avais une cinquantaine de salariés. C'était en 2000, on avait levé plein d'argent, etc. Et j'étais le plus jeune. En 2004, je vends ma société et mon appartement le même jour. Je m'étais marié en 2002. Ça s'est fait le même jour, donc on décide d'aller s'installer avec ma femme et mes deux enfants et demi en Israël. On s'est installé à Ranana au départ. De là, j'ai fondé, enfin, pendant la première année, j'ai travaillé pour le groupe Lagardère et pour le groupe Free. On a voulu lancer la Freebox en fait en Israël avec un partenaire, opérateur télécom. En 2005, j'ai fondé une autre entreprise qui a failli se faire acheter par Google. Et à ce moment-là, je devais co-diriger Google Haifa et faire partie du centre de recherche de Google Haifa. Là, tout ça, c'est pas fait. Et finalement, l'entreprise a explosé en vol. Je passe les détails. Il y a des vidéos qui parlent de ces histoires-là. Et tout est pour le bien, puisqu'au lieu d'aller m'installer à Haifa pour aller bosser chez Google, j'ai été m'installer à Bnei Brak. Voilà, j'ai 13 enfants. Nous avons 13 enfants. Baruch HaShem, le plus grand a 15 ans. Voilà, c'est assez. Quand on rentre à la maison, quand on rentre à la maison, on va pas se reposer, c'est quand on est au boulot que c'est calme. C'est une différence. Et voilà, donc nous habitons à Bnei Brak, nous n'avons pas de télé à la maison, pas de smartphone, pas de tablette, pas d'internet, pas de wifi dans la maison. Il y a mon petit bureau à côté où il y a effectivement du wifi. On a une vie, on va dire, filtrée. Filtrée, c'est pas filtrée du monde. Mes enfants connaissent la vie de Trump mieux que moi. Je ne sais pas si vous savez, mais à Bnei Brak, on a un magazine qui s'appelle Zman, qui est un magazine en fait qui parle de tout sauf de Torah et qui présente en fait, qui explique aux gens plein de sujets. Ça va être la guerre mondiale, Trump. Et en fait, quand Trump s'est fait élire, ma fille de 12 ans à l'époque s'est assise devant moi. Elle me dit: Bon, tu veux que je t'explique la vie de Trump? Je fais: Mais d'où tu connais? Et elle m'a raconté la vie, son avion, les tours qu'il a achetées, celle qui c'était le bon investissement, le mauvais investissement. Donc en fait, c'est absolument incroyable. Et en fait, parce que les enfants lisent énormément. Et en fait, voilà, de merci, mon fils de 15 ans, il finit un livre de 400 pages par jour quand il n'est pas à la yeshiva. Donc voilà, c'est assez impressionnant. C'est une vie que je n'ai pas vécue moi-même, puisque moi, je viens pas d'une famille orthodoxe. Mais c'est une vie, voilà, où on essaye de filtrer la technologie, de filtrer le monde et d'essayer d'en prendre que le bien. Mais ça, c'est un autre sujet, effectivement. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup parlé, le sujet de l'addiction à l'Internet, l'addiction au smartphone, qui est une maladie à laquelle j'essaye de guérir en permanence. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est. Alors, donc aujourd'hui, moi, enfin, depuis 2010, donc j'étais associé avec Xavier Niel. je suis toujours associé, mais on ne travaille plus ensemble. Associé avec Xavier Niel, où on a investi ensemble dans plus de 350 entreprises dans 26 pays. Et en fait, je gérais tout depuis Venez Brac. On investissait des petits montants dans plein de petites nouvelles entreprises. Et depuis 2015, j'ai quitté Xavier et ce fonds-là, Kima Ventures, que j'ai fondé, pour aller conseiller des grandes familles, des grandes fortunes dans des plus gros investissements. On fait des investissements 50 millions, 100 millions, 200 millions, des montants que je, pareil, je ne comprenais pas. Mais au final, c'est juste effectivement des zéros qu'on rajoute. Mais quand on est un investisseur, on analyse des entreprises de la high-tech, on essaie de voir effectivement si les entreprises ont de l'avenir ou pas. On a investi dans Uber, 200 millions de dollars dans Uber par exemple, il y a quelques l'année dernière. Donc voilà, ça c'est la vie professionnelle. Je conseille aussi des grands groupes français, des grands groupes européens dans leur stratégie digitale. Et ça, voilà, je dis toujours depuis Venez Brac, c'est ma grande fierté de faire ça depuis Venez Brac. Et en fait, quand je vais en rendez-vous, à part en France où je porte une casquette, dans le monde entier, et même quand je suis en vidéoconférence avec des grands groupes, je suis comme ça, en fait. Les gens savent que je suis religieux et en général, ils vont tous me demander de parler d'un sujet de Talmud ou n'importe quoi, que ce soit même des hommes ou femmes politiques qui arrivent en Israël, qui veulent me parler. Ils en ont marre d'avoir entendu parler des startups, ils me demandent de parler de ce genre de choses. Voilà. C'est le sujet sur lequel j'échange avec Emmanuel Macron d'ailleurs régulièrement, qui est un bon ami. Je dois parler plus fort. D'accord, je parle plus fort. Donc le sujet dont je voulais parler ce soir, c'était de comprendre pourquoi le judaïsme, finalement, d'aujourd'hui, n'a pas trop le vent en poupe. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a au cours des 50 dernières années, 100 dernières années, on a séparé en fait le judaïsme entre la vie qui peut avoir lieu à la synagogue ou la vie qui peut avoir lieu devant un siddour et penser, on a, comment dire, on a ça dans la tête en permanence. On pensait que quand on est effectivement à l'extérieur de la synagogue, quand on n'est pas en train de prier, quand on n'est pas en train de manger sa matzah, bah finalement, bah on n'est pas en train d'effectuer des actes juifs. Tout le sujet, en fait, bah tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, puisqu'en fait, le judaïsme n'est pas une religion, n'est pas un culte. On n'apporte pas des petits plateaux d'orange à une idole. On n'est pas là pour aller uniquement parler de nos péchés devant Dieu, etc. On est là en fait pour aller vivre en permanence une vie de juif qui est une vie régulée, c'est-à-dire qui est une vie dans laquelle on nous a donné un mode d'emploi, qui est la Torah, dans laquelle on nous a donné des règles qui ne correspondent, qui concernent pas uniquement, comme je vous ai expliqué, le Shabbat, Yom Tov, les fêtes, Tfilin, etc., etc., mais qui concernent l'ensemble, 100% des actions que l'on va accomplir dans la journée. Je ne sais pas si vous savez tous, mais par exemple, une des mitzvahs les plus bizarres, c'est qu'en fait, dans le Shulchan Aruch, l'une des premières halakhot, c'est on nous apprend comment attacher ses lacets de chaussures. Je sais pas, vous savez qu'on a ce sujet-là? Donc, par exemple, on doit chausser d'abord son pied droit, on doit ensuite chausser son pied gauche, attacher son pied gauche, et ensuite attacher son pied droit. Pourquoi? On va pas rentrer là-dedans ce soir, mais il y a des bonnes raisons. Mais en tout cas, si on est en train de se dire que dès le matin, la première chose qu'on fait, c'est à partir du moment où on met ses chaussures, on doit faire attention à le faire selon la règle. À partir de là, effectivement, chaque seconde de la journée, on va se rendre compte qu'effectivement, on a quelque chose à faire de spécial, de particulier, et qui est en fait, qui fait partie effectivement de la du judaïsme. Donc en fait, on vit en tant que juif, on vit son judaïsme en faisant des actes tout au long de la journée. Donc peu de juifs savent que le judaïsme, en fait, ne se définit pas uniquement par des lois qu'on appelle Ben Adam Lamakom. Les lois Ben Adam Lamakom sont celles dont je vous ai parlé, sont les lois vis-à-vis de Dieu, qui sont effectivement le Shabbat, Yom Tov, les Tfilin, manger kasher, etc., etc., qui ne sont pas des lois qui ont une relation entre les hommes. Mais en fait, la Torah est divisée en deux types de règles, des lois qui sont Ben Adam Lamakom, donc entre l'homme et Dieu, Makom c'est un des noms de Dieu, et Ben Adam Lachavero, et les relations entre personnes. Alors, la relation entre personnes, c'est pas juste de dire tu ne tueras point, ou tu jalouseras pas, ou des choses qu'on peut voir dans les dix commandements. La relation entre personnes, c'est absolument 100% des relations qu'on peut avoir avec une personne. D'accord? Donc ce sont les relations patron-employé, ce sont les relations entre collègues de bureau, ce sont les relations avec ses fournisseurs, ce sont des relations avec n'importe qui. D'accord? Donc toutes les relations entre hommes sont 100% régies et la Torah parle de tous ces sujets en permanence, comme on va le voir. Donc, comme je le disais, la relation avec autrui, ce n'est pas uniquement de ne pas voler son prochain, ce n'est pas uniquement de ne pas voler une personne en lui prenant de l'argent, mais c'est aussi effectivement de la respecter et de prendre en compte certaines choses de sa vie. On va en parler. Le Talmud, donc, je ne sais pas si on a un Talmud ici, il doit en avoir. Voilà, donc le Talmud, c'est ça, d'accord? Donc ça, vous avez un Talmud complet, ici. D'accord? Le Talmud, en fait, a trois volumes qui parlent uniquement des relations commerciales. Ce sont les Baba Metzia, Baba Batra et Baba Kama. D'accord? Donc vous avez trois volumes complets, qui sont les volumes les plus gros, d'accord? Les volumes les plus complexes, qui vont aller parler, pas du tout de Shabbat, enfin, ça parle aussi de d'autres sujets, évidemment, mais ne vont pas parler effectivement de ce qu'on doit faire à la synagogue, de notre filote, etc., mais vont aller parler uniquement des relations entre personnes. Il y a des centaines de pages de Talmud, des milliers de pages de commentateurs. Le Shulchan Aruch, qui est en fait la loi, donc le traité qui où est défini l'ensemble de la loi juive, c'est en fait ce qu'on appelle les psakim, c'est-à-dire comment aujourd'hui on doit vivre la loi juive, est divisé en quatre parties, et l'une des parties s'appelle Choshen Mishpat, pareil, parle de la relation entre personnes. Et donc, pareil, le Shulchan Aruch, donc, de la même manière que le Shulchan Aruch inclut des lois qui vont concerner, comme je vous ai expliqué, la kashrout, les fêtes, les prières, il y a donc effectivement ces relations entre personnes. Et ça, c'est le Shulchan Aruch, et après, vous avez des milliers de livres, peu en français, quelques-uns qui commencent à arriver, qui traite effectivement ensuite de ces sujets. Faut savoir que on a retrouvé à la Gnisa du Caire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Gnisa du Caire, mais en fait, on n'a pas le droit de jeter ou de brûler un livre de Torah. D'accord? On n'a pas le droit de jeter ou de brûler même une lettre de correspondance dans laquelle on a fait référence à des psukim de Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si vous allez par exemple à Bnei Brak, vous avez des grandes cages bleues qui sont des genre, enfin, ça ressemble à des poubelles, mais c'est pas ça. Qui sont des endroits où on va aller placer l'ensemble des livrets Torah qu'on veut jeter. On les met à l'intérieur. Les camions arrivent, les prennent avec respect, d'accord? On les jette pas. On les prend, on les amène en général dans le nord du pays ou dans des endroits, dans des grands terrains, et on les enterre sous le sol. Et en fait, donc aujourd'hui, effectivement, vous avez dans plusieurs villes d'Israël, vous avez des processus de Gnisa. Même en général, dans des synagogues, vous avez des endroits où effectivement vous pouvez mettre ces religieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé une Gnisa qui date d'il y a 1000 ans. C'était la Gnisa du Caire. C'est une des plus grandes Gnisas du monde. Et la Gnisa du Caire, quand on commençait à regarder, effectivement, il y avait à l'intérieur des lois, des discussions sur des lois standard du judaïsme, effectivement, j'ai mélangé ma cuillère de lait, j'ai pris de la viande alors que, voilà, j'ai pris de la viande qui était chaude, enfin, tous les sujets par rapport à la cachoute, par exemple. Vous avez aussi des correspondances, beaucoup, beaucoup, beaucoup de correspondances, entre les rabbanim qui sont dans le monde entier et les marchands du monde, puisqu'en fait, les juifs étaient des très, très grands marchands. La plupart des juifs étaient des grands marchands, étaient des marchands. Et là, vous avez effectivement une correspondance qui va être de dire, voilà, j'ai un conflit avec un de mes fournisseurs, ou alors on va prendre un exemple qui est connu, c'est par exemple, j'ai donné à un bateau ma marchandise à transporter dans tel pays, le bateau a coulé au milieu parce que le capitaine avait oublié d'enlever. Enfin, le mât ou n'importe quoi, est-ce qu'il doit me rembourser, si oui, combien, etc., etc. Et vous avez en fait plein, plein, plein de discussions là-dedans. Donc, quand j'étais jeune et quand j'étudiais le judaïsme, on ne nous parlait pas de ça. Qu'en fait, on n'était pas en train de nous dire, effectivement, que les rabbins, la Torah, avaient un mot à dire là-dessus. Et en fait, quand on se rend compte de la vie des juifs au cours des 1000 dernières années, cette interaction-là est permanente. C'est-à-dire qu'en fait, les rabbanim étaient presque associés à l'ensemble des réflexions qui pouvaient tourner autour du monde des affaires. On n'est pas en train de parler ici de ce qu'on appelle, aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est de parler de ce qu'on appelle les business ethics. D'accord? L'éthique dans le monde des affaires. Il y a des marques de cosmétiques, par exemple, qui vont vous dire on va pas aller produire dans telle forêt parce que, effectivement, on va couper trop d'arbres, des choses comme ça. D'accord? Ça fait partie aussi des halakhot. Il y a les sujets de Baal Tachrit, par exemple, ou ces sujets de Torah, qui font partie des lois importantes. Mais on parle ici, effectivement, de quelque chose qui va bien plus au-delà de ça. C'est effectivement, même effectivement, la relation avec son fournisseur et avec son employé. Ces sujets-là, aujourd'hui, dans les conférences de business ethics, on en parle très très peu. On peut parler du fait que, par exemple, il faut payer son fournisseur à temps, ou il faut payer son salarié à temps. D'accord? Donc, on a, comme je disais, très souvent, on a le réflexe d'enlever sa kippa en sortant de la synagogue. D'accord? On sort de la synagogue, on dit voilà, là on est dans un lieu, Dieu est présent. Et à l'extérieur, bah, je ne sais pas, on enlève sa kippa. Alors certaines fois, on peut le faire parce qu'effectivement, on a honte, on a peur quand on est en France ou des choses comme ça peut s'expliquer. Mais certaines fois, on enlève sa kippa, et je le faisais moi-même il y a longtemps, parce qu'en fait, on pense qu'on n'a plus rien à voir, effectivement, on n'a plus de connexion, effectivement, avec Dieu à ce moment-là. Moi, personnellement, je me dis, après avoir étudié tout ça, que finalement, la kippa, on en a besoin le plus dehors. Encore quand on est à la synagogue, on n'oublie pas qu'on est en train de parler de sujets religieux et en train de faire une tefila et en train de parler à Dieu. Mais au final, on oublie régulièrement quand on est avec son client devant soi, on peut oublier que on ne doit pas le mentir, on ne doit pas le tricher, on ne doit pas lui présenter quelque chose de faire un mauvais angle, etc., etc. Et donc en fait, finalement, avoir en permanence quelque chose, donc je parle de la kippa, mais ça peut être, si vous voulez avoir un bip-bip sur votre montre, vous pouvez faire ça aussi. Mais il faut en permanence se rendre compte qu'on a un besoin permanent de se rappeler que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, on va parler du sujet de la Emouna, mais Dieu est avec nous dans le sens où Dieu attend et nous met à l'épreuve permanente pour savoir si effectivement on va choisir à un moment donné dans notre vie le bien ou le mal. Et ça, on va le passer par exemple en entretien d'embauche. D'accord? Vous arrivez en entretien d'embauche et on va vous poser des questions. Alors vous savez très bien que votre diplôme, vous ne l'avez pas eu, mais vous avez quand même mis dans votre CV que vous l'avez eu. Ou alors, vous avez effectivement un peu triché votre CV. Ou alors, vous avez fait un stage dans une entreprise, vous avez juste oublié enlever stage et vous avez mis directeur marketing. C'est du vécu, hein, tout ce que je vous parle, j'ai eu les gens comme ça. Ou alors, par exemple, nous, on reçoit des CV de développeurs informatiques, ils savent tout faire. Franchement, c'est vrai que même Bill Gates ne s'est pas développé aussi bien. Et après, quand on commence à creuser, alors oui, non, mais ça, en fait, j'ai appris en lisant un livre il y a longtemps, ça, j'ai oublié, ça, j'ai tout, etc. Et on se rend compte, effectivement, que ce qu'ils veulent présenter n'est pas vrai. Et donc, effectivement, quand on arrive à un moment, on va avoir une épreuve de vie. Moi, je présente ça comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu des épreuves. Je ne sais pas si vous avez joué à Mario Bros à l'époque. Enfin, on peut jouer aujourd'hui sur iPhone. Mais en fait, on a en permanence des niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans notre vie, on se lève le matin, on sort, on va avoir maintenant des épreuves. Épreuve du client Monsieur X. Est-ce que maintenant, je vais réussir à rester honnête, à respecter l'ensemble des mitzvot qui concernent effectivement la vente, parce qu'il y a des lois donc qui concernent la vente, la manière de parler. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Enfin, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Effectivement, le fait de ne pas dire de mensonges ou de choses comme ça. Et est-ce que, effectivement, je vais réussir à passer cette épreuve? Aujourd'hui, nous, on n'arrive pas comme ça. Quand on arrive, enfin, aujourd'hui, j'ai passé, justement, Dieu merci, cette épreuve. Mais autrefois, quand j'arrivais chez un client, je ne pensais pas à est-ce que je vais être quelqu'un de bien? Non, je pensais à est-ce que je vais avoir le contrat? Est-ce que je vais réussir à avoir ce contrat? Est-ce que je vais réussir à avoir le truc? Ah, au final, je vais lui prélancer les choses, pas vraiment la vérité, mais ça change rien pour lui. D'accord? On va toujours se trouver une excuse de mentir, on va toujours trouver une excuse de tricher, on va trouver une excuse de vendre un produit qui n'est pas parfait. Vous savez, dans le monde de l'informatique, par exemple, il y a la mode, c'est d'aller vendre un logiciel en disant qu'il y a une fonctionnalité Et en fait, la fonctionnalité, on la développe que s'il y a plein de clients qui l'ont demandé. Donc le client arrive, on lui dit, il y a la fonctionnalité. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est dans la version d'après. Mais non, mais j'avais besoin de ça. Et hop, on va commencer à dire, mais vous avez signé votre contrat, il y a écrit que vous le prenez tel que, etc. Vous pouvez pas revenir en arrière. Après, en fait, quand on a des échanges en fait commerciaux, on fait ça souvent à l'oral. Et même en général, même si on fait ça à l'écrit, très très dur pour un client de revenir en arrière et de dire, j'ai acheté un produit qui ne me correspond pas. D'accord? Donc en fait, pour ça que je parle de jeu, c'est qu'en fait, effectivement, on va se lever le matin. On va d'abord voir effectivement si on met bien ses chaussures. D'accord? Je plaisante, mais c'est juste pour se rendre compte de à quel moment on démarre. Et à partir effectivement du premier rendez-vous, à partir de là, effectivement, on doit se dire, voilà, quelle va être mon épreuve à ce moment-là. Et je dois arriver préparé en me disant, Dieu, de toute façon, contrôle ma parnassa. C'est un sujet dont on peut parler ce soir en détail après. Dieu contrôle ma parnassa. Moi, maintenant, la seule chose que je dois faire dans ma vie, c'est de choisir le bien, de choisir le Derech HaTorah pour réussir. D'accord? Ma seule épreuve que j'ai dans ma vie, c'est d'être quelqu'un de bien. C'est la seule chose. Dans le Chumash, vous avez la Parashat Yitro, qui est, donc dans la Torah, vous avez la Parashat Yitro, qui est la Parasha où les 10 commandements sont donnés. D'accord? Les 10 commandements sont donnés, donc vous les connaissez. Et juste après, on pourrait imaginer qu'on va commencer à parler du Shabbat, des Tfilin, de tous ces sujets-là dont on va parler. Non, immédiatement arrive Parasha Mishpatim. Si ton bœuf a encorné le bœuf du voisin, tu dois payer tant et tu dois lui rembourser ci, etc. Et attendez, imaginez Moshe Rabbeinu qui descend du Har Sinaï, on dit qu'il était plein de lumière. Il arrive avec ses tables et il descend et il commence à faire un cours de commerce. Un cours de commerce, un cours de relation entre les gens à l'ensemble du peuple juif. En général, on pense pas à ça comme ça. On n'imagine pas le peuple juif comme ça. On imagine le peuple juif devant la Torah en train d'étudier ou je sais pas. On imagine effectivement en faisant attention à bien faire la shrita du bœuf ou des choses comme ça. Mais non, 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 non. Moïse arrive en expliquant effectivement l'ensemble des interactions qui vont avoir lieu entre les personnes. C'est immédiatement après la parasha Yitro, c'est la parasha Mishpatim. De la même manière, au Beth Amikdash, au temple, le temple, on pense au temple, on pense au sacrifice, d'accord? On pense au Kohanim qui faisait la prière de Kippour, etc. Mais on oublie qu'en fait, collé au temple, il y avait le grand Sanhédrin, qui était un tribunal. Le tribunal était collé au temple, était donc sur le mont du temple, donc c'était un endroit kadosh, et où était légiféré, était tranché des conflits entre personnes, des conflits, bon, ça peut être aussi des conflits entre hommes et femmes, où il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Mais en tout cas, vous avez, au sein même du Beth Amikdash, vous avez une place forte, qui est une place où on est là pour faire la justice. C'est-à-dire qu'en fait, le service divin, on peut comprendre les sacrifices, c'est un autre sujet qui est complexe, mais le service divin, la prière, c'est quelque chose, mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de la justice à côté. C'est-à-dire que la justice et ce service divin n'est absolument pas incompatible, bien sûr, mais justement super complémentaire. On ne peut pas l'un sans l'autre. On a un passouk dans Sfania, c'est qui dit « Shérit Israël, lo yasu avla, ve lo yedabehu chazav. » Les restants d'Israël ne commettront pas de corruption et ne diront pas de fausseté mensonge. De fausseté. On parle des restants d'Israël, on parle de la fin des temps, d'accord? On parle du moment où le Mashiach va arriver. Et à ce moment-là, on dit que ceux qui resteront ne seront ceux qui ne disent pas de mensonges et qui ne font pas de gens corrompus. C'est-à-dire, ce qui est important, qui sera important à la fin des temps, ça va être effectivement notre droiture. Le SMAC disait qu'il fallait effectivement, c'était donc le SMAC, c'était il y a 800 ans, qui disait qu'il fallait faire très très attention à notre manière de vivre à la maison, mais surtout à notre manière de travailler. Et au moment en fait de la venue du Mashiach, d'accord, qui peut arriver dans 5 secondes, à ce moment-là, on va avoir toutes les caméras du monde tournées vers nous. Toutes les caméras du monde. Bon, on les a déjà tournées vers nous. Malheureusement, pas toujours pour les bons sujets. Mais là, on aura... Ah, il se passe un événement énorme. C'est pas Britney Spears qui arrive-t-il à vivre. C'est le grand événement en ce moment. Et il se passe quel événement énorme. Dieu a choisi le peuple juif. C'est flagrant. Le monde entier s'en rend compte. Et là, le monde se tourne vers nous et va aller dire, bon, pourquoi eux? D'accord? Surtout, ils n'ont pas obligatoirement compris à ce moment-là. Ils savent qu'il y a la tradition, le peuple juif parle du Messie en permanence, etc. Mais on commence à voir pourquoi eux. Et là, en fait, le Smaï va dire qu'il peut y avoir un Chilul Hashem gigantesque si on nous regarde et en disant, ah, mais c'est le peuple de Madoff. C'est le peuple du Forex, c'est le peuple du diamant, c'est le peuple du tac, 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 tac. Et là, on risque d'avoir un problème. On risque d'avoir un problème. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un problème parce qu'on va se retrouver face aux caméras avec Dieu qui nous a choisis, qui a choisi le peuple juif, qui va être le centre du monde. Et quand on va se rendre compte, on va creuser un tout petit peu, les gens vont creuser un peu de qui on est. Effectivement, on peut se rendre compte que... c'est pas toujours parfait quand même. Et là, à ce moment-là, le SMAC dit qu'il faut faire très attention à ça. Et en fait, il y a deux possibilités. Il y a soit effectivement, le Mashiach ne viendra pas tant que ça ne sera pas réglé. Soit en fait, le Mashiach reviendra et en fait, tous ceux et celles qui participent à ces mensonges disparaîtront. C'était il y a 800 ans. D'accord, je ne parle pas de choses qui sont récentes. On a dans Yeshaya, on a un pasouk pareil qui dit Tzion bemishpat tipadé, Israël sera sauvé par la justice. Dans l'histoire de notre ancêtre Yaakov, d'accord, donc on a Avraham, Israël, Yaakov et Yaakov et Israël, d'accord. Yaakov a changé de nom, il s'appelle Israël. Nous on s'appelle Béné Israël. Les enfants, le mot juif est arrivé bien plus tard. Mais on s'appelle les Béné Israël, les enfants d'Israël. Donc on est les enfants de Yaakov. Si on regarde la vie de Yaakov, c'est une vie assez spéciale. Il vit chez son père Israël avec son frère Esav, qui est une crapule, un tueur, etc. On dit commettait énormément d'adultères, etc. Il quitte donc son père puisqu'il a volé la bénédiction de son frère. Et pareil, c'est un sujet à creuser. Et il arrive chez Lavan. Lavan, c'est le frère de sa mère, d'accord. Et il va là-bas parce qu'en fait, sa mère lui a dit d'aller chercher chez Lavan une femme avec qui se marier. Il arrive là-bas, il rencontre donc Rachel. Il voit Rachel, il a un coup de foudre. Bon, comprendre le coup de foudre entre Yaakov et Rachel, il faut pareil aussi creuser. Et à ce moment-là, Lavan lui dit, voilà, en fait, Yaakov arrive les mains vides, arrive avec pas d'argent, parce qu'il a donné, il a dû donner sur la route à un des enfants d'Essav, a dû donner toute sa fortune. Et il arrive donc sans rien, et donc on lui demande de travailler pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Yaakov s'exécute, il travaille pendant 7 ans. 7 ans de la vie d'une personne pour pouvoir se marier avec Rachel. Il arrive après 7 ans, Lavan lui donne Léa à sa place, donc la sœur de Rachel, et dit nous on marie pas, chez nous on marie pas la seconde avant l'aînée, et donc voilà, il propose, il lui vend Léa. Et donc Yaakov lui dit, oui mais tu m'as dit aussi, tu m'as dit Rachel, nous chez nous ça se passe comme ça. Et Yaakov accepte un nouveau deal avec Lavan qui lui dit, bah tu travailles 7 ans de plus et je te donne Rachel. Et en fait donc il s'est marié 7 jours après, donc 7 jours après le mariage, mais il a dû retravailler pendant 7 ans. Donc vous avez 14 ans de la vie d'Yaakov qui sont un travail où un travail où Yaakov était berger. Et en fait, quasiment toute la vie d'Yaakov est centrée autour de ces événements-là, de ces 14 ans-là. Après, il va y avoir l'épisode de la vente de Yosef, où on voit que Yaakov va mal vivre ça. Avant, on voit que Yaakov était assis dans les tentes, d'accord? Mais si on doit analyser la vie de notre ancêtre Israël, donc nous, les enfants d'Israël, donc, il nous a transmis quelque chose. C'est un homme qui était un berger, qui avait en face de lui, on dit un truand, un menteur, un tricheur, quelqu'un qui changeait le contrat, on dit qu'il changeait le contrat 1000 fois, il a changé les accords qu'ils avaient entre eux. quelqu'un qui n'était pas de confiance. Et en fait, Yaakov, pendant toute la durée de ce contrat-là, va devoir rester yachar, va devoir rester droit. Il est face à à une crapule, il doit rester droit. Et c'est ce qu'il va faire pendant 14 ans. Il va, à un moment, à la fin, la vie avant de partir de chez Lavan, il va négocier un contrat avec Lavan et va faire tout pour qu'il soit en sa faveur. Pareil, ça, on peut voir s'il avait le droit de le faire ou pas. Évidemment, il avait le droit, mais il faut étudier ça. Et après, il se quitte de chez Lavan. Et là, sur la route, il va rencontrer le malach de Essav, d'accord? L'ange de Essav. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ange de Essav? Complexe à comprendre, mais en tout cas, il va rencontrer quelque chose qui représente la philosophie du monde de Essav et va se battre contre lui. Et à la sortie de ce combat, Dieu lui donne un nom, d'accord, parce que l'ange a été envoyé par Dieu, Dieu lui donne un nom, il l'appelle Israël. D'accord? Donc si on imagine bien la conclusion, en fait, de ces 14 ans, c'est maintenant tu t'appelles Israël. Maintenant, tu vas t'appeler, on va te donner le nom qui va être en fait le nom de nous tous aujourd'hui, d'accord? De tous les Juifs du monde. On va prendre ce nom-là et on doit maintenant perpétuer la vie de Yaakov. C'est quoi perpétuer la vie de Yaakov? On ne le voit pas prier, d'accord? On le voit un moment, on le voit prier un moment où il demande, avant d'arriver chez Lavan, où il dit donne-moi de la nourriture et des vêtements. Il demande même pas un toit. Nourriture et des vêtements, c'était la seule chose dont il avait besoin. Mais tout le reste, on voit rien d'autre à part il est en train de faire son business avec son beau-père et il arrive à rester absolument droit. C'est tout. C'est ça, Israël. On peut aller maintenant partir dans plein de choses. On peut aller dire que Israël, effectivement, c'est le Shabbat est important, les Tfilines sont importants, la Kashrout sont importants, et c'est super important, évidemment, pas l'un sans l'autre. Mais Israël, Yaakov, la vie de Yaakov, ne parle pas de ça. Donc concrètement, on nous a donné le nom de Israël. Y a plusieurs explications d'Israël, mais l'un d'entre eux, c'est Yachar, elle. Yachar devant Dieu, être droit devant Dieu. On dit toujours, en fait, quand on travaille, on doit en permanence dire, voilà, ce genre de choses. J'ai vu Hachem Nigditamid, j'ai vu Hachem, j'ai placé Hachem devant moi tout le temps, ou Enod Milvado, il n'y a pas autre chose que Dieu. C'est en permanence se dire, je ne suis pas seul, je suis en train de participer à une épreuve. Et en fait, finalement, Yaakov a été le premier à appliquer, à vivre cette épreuve-là. Et en fait, la Mida, en fait, l'attribut qu'on attribue à Yaakov, donc à Abraham on attribue le chesed, à Yitzhak on attribue la justice, et à Yaakov on attribue le emet, la vérité. Et c'est en fait, nous on ne descend pas d'Abraham, effectivement c'était le grand-père de Yaakov, mais Ishmaël aussi descend d'Abraham, on ne descend pas d'Israël, Esav aussi descend d'Israël, on descend de Yaakov. Tous les enfants de Yaakov représentent le peuple d'Israël, et nous sommes les arrière-arrière-arrière-petits-enfants de Yaakov. Donc voilà, donc le sujet, je parlais là, c'était vraiment de se dire, on a deux manières de faire les choses. On a une manière de dire, moi je vais maintenant, dans mon business, dans mon travail, je vais faire les choses bien. D'accord? Je vais faire en sorte à faire les choses d'une manière droite et à respecter ce que j'appellerais mon éthique personnelle. Ou alors on a la moyen de transformer notre vie professionnelle en mitzvot du matin au soir. Du matin au soir, on a la possibilité de faire des mitzvot qui vont effectivement agrémenter et qui vont être le cœur finalement de notre vie, puisqu'on va passer beaucoup plus de temps au travail qu'à la synagogue ou devant un livre de Torah, ou devant la télé. J'espère. Et donc c'est ça en fait le choix qu'on a. Donc à titre perso, comme vous l'avez compris, j'ai dit bah tiens, puisque je passe beaucoup de temps à travailler, tant qu'à faire, je vais étudier l'ensemble de ces lois pour qu'à chaque fois que j'ai une occasion d'appliquer une loi, je fais ce qu'on appelle une mitzvah. Donc, une mitzvah, ce n'est pas un système de compteur, d'accord, avec des points qui tournent derrière nous comme un match de basket, d'accord? Mitzvah, c'est quoi? C'est qu'en fait, je suis en train de faire la volonté de Dieu, je suis en train de suivre le mode d'emploi du monde. Et ce mode d'emploi est censé me guider vers quelque chose qu'on appellerait le bonheur. D'accord? On appellerait le Gan Eden en haut, d'accord? Mais qui, un bonheur aussi sur terre, qui effectivement, je fais l'ensemble de la volonté de Dieu. J'ai des épreuves, il peut y avoir des efforts, je peux perdre un gros client, je peux avoir à un moment des problèmes financiers, etc. Mais non, 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 j'ai une satisfaction. Des gens pauvres, moi j'habite à Bnei Brak, qui est la ville la plus pauvre d'Israël. Bon, l'immobilier a tellement monté, maintenant je ne sais plus si ça va rester vrai. Mais en tout cas, c'est une des villes les plus pauvres d'Israël. Je vois en fait des gens qui sont pauvres, mais qui vivent heureux. Et d'ailleurs, il y a eu à Haaretz, ça a sorti que la ville où les gens sont plus heureux, c'est la ville la plus pauvre d'Israël. D'accord? Juste pour voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour être heureux, mais ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose là-bas. Il se passe quelque chose, pourquoi? C'est qu'en fait, n'importe quelle épreuve n'est pas analysée comme quelque chose qui est là pour nous donner une punition ou pour nous embêter. D'accord? Dieu n'est pas là en train de nous donner des coups sur la tête. Dieu est là en train de nous faire passer les fameux niveaux dont je vous ai en train de parler. C'est en train de nous mettre dans une situation où à un moment on va se retrouver avec pas d'argent. Donc, est-ce que je vais aller voler? Est-ce que je vais aller tricher? Est-ce que je vais aller mentir? Est-ce que je vais aller faire plein de choses? Ou alors, va nous mettre dans une situation de très forte richesse, très grande richesse. Moi, je conseille des milliardaires. Milliardaires, je parle de gens qui ont plus de 10 milliards. D'accord? Il y a une tendance permanente à vouloir faire des choses pas droitement, sans droiture. Permanence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque un jeu. D'accord? Et quand on est riche, l'influence est encore plus grande, d'accord? Parce qu'on peut aller influencer plein de salariés en leur retirant des avantages qu'ils avaient eus et qui on va pas leur donner, etc. À qui on va plus donner, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on a chacun de nos vies, chacun de notre statut de vie, et très souvent dans nos vies, on va à un moment avoir des problèmes pour arrondir les fins de mois, pour finir le mois. Certaines fois, on va avoir assez d'argent pour s'acheter un iPhone tous les 3 mois. Le nouveau modèle, et Samsung et suite, et tout ça. Et voilà, on va avoir des vies différentes, mais en fait, dans chacune de ces phases de vie, on est juste en train de jouer à un autre niveau du jeu. On est juste en train d'avoir, effectivement, de comment est-ce qu'on va vivre à ce moment-là, de cette manière. Effectivement, dans la Gemara, vous avez plein d'exemples où on va vous dire, on va vous donner des exemples d'histoires de pauvres et des histoires de riches, les épreuves qu'ils ont eues et comment ils se sont plantés ou comment ils ont réussi. D'accord? C'est courant, en fait, dans la Gemara de voir ce genre de choses. Quand on arrivera en haut, à 120 ans, on va nous poser quelques questions. On va se retrouver devant un tribunal. D'accord? On va se retrouver devant un tribunal. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait pas peur. Normalement, on n'est pas censé avoir spécialement peur de ça, si on s'y prépare. Mais en tout cas, la première question qu'on va nous poser, c'est donc Beshach Amarava dans Agmara, Masheret Shabbat. Beshach et Matnissim Adam Ledin, Omrimlo. Donc, quelle est la première question qu'on va poser à un homme ou une femme quand il va rentrer devant Dieu? D'accord? On arrive au tribunal céleste. Est-ce que vous savez quelle est la première question? Très bien. C'était? Non. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant que vous y répondiez ça. Non, mais c'est très intéressant que vous répondiez ça. La question qu'on va lui poser, c'est Nasata venatata beemuna. As-tu fait du commerce avec Emuna? Alors, Emuna, ça a deux significations possibles. C'est soit avec Aminut, avec droiture, ou avec la foi. Avec la foi que Dieu dirige le monde. D'accord? Donc la phrase est un peu ambiguë. Mais au final, on peut rejoindre les deux sujets, puisqu'en fait, très très souvent, quand on va aller voler, quand on va aller tricher, c'est très souvent, en fait, on ne fait juste pas confiance à Dieu, et on est juste en train de dire à Dieu, bon, il paraît, on dit dans le Birkat Amazon, après chaque repas, je sais pas comment je dis pas, on est en train de dire que c'est toi qui donnes la parnassa, c'est toi qui donnes, etc. Mais quand même, je vais quand même aller piquer... téléphoner à un mec au Nigeria pour aller lui prendre quelque chose. D'accord? La première question qu'on nous pose, ça sera une question de commerce.
Mais si quelqu'un n'a pas fait de commerce?
On a toujours fait du commerce. Vous avez été chez l'épicier, vous avez été chez l'épicier, et vous avez vu qu'il y a une erreur dans l'étiquette. D'accord? Est-ce que vous avez le droit d'acheter le produit? Alors, il y a, c'est pareil, c'est légiféré, il y a un pourcentage de taux d'erreur, il y a pas mal de choses qui existent, d'accord? Mais on a tous des relations avec des gens. Vous avez pris une babysitter, vous avez pris une femme de ménage. Pareil, est-ce que vous l'avez payé à temps? Est-ce que vous lui avez payé le bon prix? Est-ce que la femme de ménage vous a, ou la personne? Parce que quand je dis natata et metata, c'est pas faire du business, c'est pas juste
Ça,
fait
c'est
pour
pas
les
pour les
patrons, hein.
patrons, voilà.
C'est fait pour tout le monde.
Pour
C'est
les gens qui.
je suis employé, je suis babysitter, je suis n'importe quoi. Par exemple, on veut le faire, par exemple, le cas de babysitter, le cas un peu classique. Aujourd'hui, on a les smartphones, d'accord? La babysitter est amenée à la maison et la maman lui dit, voilà, je prends, joue avec mon petit. D'accord? Je veux que tu joues avec le petit. Et la fille, elle laisse le petit sur le truc, il est en train de jouer avec des Legos, il la regarde comme ça, et elle est là avec son smartphone à rigoler sur Facebook, à faire pas mal de choses. D'accord? C'est du vol. D'accord? Clairement. C'est pas la prestation qu'attendait la maman, surtout si elle lui a demandé. Si elle n'a pas demandé, aujourd'hui c'est tellement courant d'être sur Facebook que le sujet est à la discussion, mais les parents eux-mêmes sont sur Facebook. Donc bon. Mais voyez, en fait, cette relation, ce commerce-là, c'est en fait, natata, natata, c'est l'interaction qu'on peut avoir entre les gens. D'accord? Et ça, on en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, en achetant le matin, dès qu'on achète du pain le matin. D'accord? Donc c'est la première question qu'on va nous poser. La deuxième question qu'on va nous poser, c'est Kavata Itim Batora. C'est effectivement, est-ce que tu as fixé des temps d'études pour étudier la Torah? Deuxième question. Cette question, en fait, est importante, pas parce que la Torah c'est bien et que tout le monde dit que c'est bien, etc., mais elle est importante parce qu'effectivement, finalement, pour arriver à cette droiture dont je parle là, il faut étudier. D'accord? On n'arrive pas avec notre tête à se dire si ce qu'on fait est bien ou ce qu'on fait n'est pas bien. Parce que très très souvent, dès qu'il y a une question d'argent en jeu, très très souvent, on va pencher sur ce qui va nous faire apporter plus, en disant que c'est très bien ce qu'on fait. D'accord? Donc l'étude à toi est importante. Et ensuite, on a, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Etc. etc. Mais en tout cas, voilà, comme je l'ai expliqué, la première question, ça a été, c'est ça. Le Rambam dit qu'il est important de comprendre que à n'importe quel moment de notre vie, on doit faire les choses dans l'intention de faire les choses, ce qu'on appelle l'Eshem Shamaim, au nom du ciel. D'accord? Au nom du ciel, je vais faire une petite précision avant de parler de ça. Il y a une faute qu'on peut faire quand on applique son judaïsme, c'est de penser que Dieu a besoin de nos prières. C'est penser que Dieu attend quelque chose, attend une satisfaction de notre part. Donc je peux rentrer par exemple à la synagogue, je vais venir prier et je vais ressortir. J'ai donné ma prière à Dieu. D'accord? Ça, cette pensée-là, cette mentalité-là, qu'on a tous, d'accord? Par défaut, on l'a tous, c'est exactement la mentalité de ce qu'on appelle la Avodah Zara. D'accord? L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est de dire, Dieu, je te donne quelque chose, en échange, donne-moi autre chose. D'accord? En échange, donne-moi la vie, donne-moi la pluie. D'accord? Si on voit les différentes idoles qu'il y avait il y a 2000 ans, 3000 ans, etc., c'était le dieu de la pluie, le dieu de la terre, etc., etc. D'accord? C'était des dieux en fait qui concernaient des choses et ils étaient les dieux étaient adorés parce qu'on attendait qu'eux nous rendent quelque chose. Le dieu de la guerre, etc. On ne doit pas rentrer, nous, dans cet état d'esprit, quand on accomplit notre judaïsme, on ne doit pas se dire je suis en train de faire plaisir à Dieu. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on appelle l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est le fait, nous on dit que Dieu est un, d'accord? Dieu est un, ça veut dire Dieu est tout. Dieu est un, ça veut dire que finalement, Dieu n'a besoin de personne. Dieu est un, est unique, il a tout, il n'a besoin de rien. Il a tout, d'accord? Donc s'il a tout, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin qu'un petit Tel-Avivien arrive devant la Torah et aille faire un kaddish en chantant super bien, à faire ce genre de truc. Est-ce qu'il a besoin de ça? Non, il n'a absolument aucun besoin. D'ailleurs, il y a des questions, il y a une question qui est posée, c'est pourquoi Dieu a même créé le monde? À quoi ça lui sert? Pourquoi? Et en fait, la réponse là-bas, juste entre parenthèses, c'est que Dieu est un Dieu de bonté et Dieu veut donner. Okay? Donc Dieu veut donner. Dieu veut donner. Et il avait besoin, effectivement, enfin besoin. Je fais très gaffe aux mots que je vais utiliser. Et en fait, pour donner, bah, il faut avoir quelqu'un à qui donner. Et donc, effectivement, la terre a été créée pour que Dieu nous donne en permanence. Mais au final, faire les choses, l'échem shamaïm, faire les choses qu'on dit pour au nom de Dieu, même quand on fait nos mitzvahs, notre mitzvot en mettant notre filine ou en mettant, etc. La faute, comme j'ai expliqué, c'est de se dire que Dieu attend quelque chose de nous. Ce qu'il n'attend rien. Ce qu'on doit faire, pourquoi est-ce que nous, on doit aller prier? J'appelle ça la phase de synchronisation. C'est qu'en fait, dans notre vie, on est en permanence pris par le rythme de la vie, d'accord? Donc on va se lever, on va vite aller travailler, on va aller dans les transports, on va aller faire ci, etc., etc. Le temps passe. Alors au début, on dit grâce à Dieu, après ça devient automatique de dire Baruch Hashem, Baruch Hashem. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui mangeait du jambon de porc et il m'a dit Baruch Hashem. D'accord ? Il était devant moi. Hein. Il me dit Baruch Hashem, ouais, tout va bien. Voilà. Donc, comment on peut s'habituer à ce genre de choses. Vous savez bien que c'est comme ça que ça marche. Mais au final, la prière, 3 fois par jour, est là pour nous rappeler que Dieu contrôle tout. Que Dieu contrôle notre parnassa, que Dieu contrôle notre refoua, d'accord, notre guérison, en fait, notre état de santé. Que Dieu contrôle notre sagesse, la première bracha qu'on fait dans la Amida, dans Shemona Esrei, c'est Atachonen Adam Daat. C'est à toi qui donne la sagesse, qui donne la connaissance, etc., etc. Se dire, Dieu, c'est toi qui donnes tout. C'est toi qui me donnes toutes mes aptitudes de vie. Et donc, la phase de prière, ce n'est pas une phase où j'accomplis un devoir. Le seul devoir que j'ai, c'est qu'en fait, Dieu m'a dit, enfin la loi et la Torah nous dit d'aller prier parce qu'il y a besoin de se resynchroniser avec Dieu. Il y a besoin de se remettre dans l'esprit que Dieu est avec nous. On sort de la synagogue, on s'est resynchronisé, on se remet au boulot. C'est à l'extérieur que ça se passe. C'est à l'extérieur qu'on va aller vivre ce judaïsme-là. C'est à l'extérieur à n'importe quel moment de la journée. Donc, comme dit le Rambam, dit quelque chose. Il dit Sarech Adam. Donc, ça, ce sont les halachot, ce sont les chot deot. Sarech Adam. Sheikaven libo vechol maasav kulam, leda et hachem baruchu bilvad. L'homme doit penser, doit tourner son cœur et toutes ses actions afin de connaître Dieu uniquement. Veye shifto. Il aura son repos. Vekumo. Et son lever, Vidiboro et sa parole, uniquement à Kol ou Madzé Adavar, uniquement pour ces choses-là. Ketsa chez Issa Veiten, quand il va faire du commerce. Oya Semeyacha, Itolsra, où il va faire un travail pour prendre un salaire. Loye Bilibo, Ligbots Mamon Bilvad, il ne doit pas avoir dans son cœur le fait de juste rassembler de l'argent. Et là, il y a Sedvarim Aelou, Kedeshim Sadvarim, Shagub Tsarech Laem, il doit faire ça en disant je fais cela. Je travaille, pas parce que je veux m'enrichir, mais pour que je puisse, avec ça, acheter des choses dont mon corps a besoin. Nourriture, merchila, shtia, et yeshivat bait, pour avoir ma maison, et nesia desha, et pour me marier. Donc, l'homme doit en permanence penser à ça. Le fait de dire, moi je fais du business, j'aime l'argent, j'aime les projets, je suis un super entrepreneur, etc., ne doit jamais être un objectif. L'objectif, c'est d'avoir une vie qui me permette effectivement d'être connecté à Dieu, d'être connecté à l'ensemble de ces mitzvot-là. Et comme j'ai expliqué, c'est effectivement les différentes épreuves. Mais je ne dois absolument jamais avoir un objectif purement financier à n'importe quel de mes actes. Ça n'existe pas dans la Torah. J'ai eu un garçon m'a contacté la semaine dernière. Enfin, j'ai un garçon, il a 27 ans, quelque chose comme ça. Et il me dit, voilà, j'ai un grand problème, j'adore la Torah, j'adore l'étude, etc. Mais j'adore les Maserati. Et mon rêve, c'est d'avoir une Maserati. Donc, je bosse comme un dingue pour avoir une Maserati. Et j'ai besoin d'avoir toujours le dernier modèle d'iPhone, etc., etc. Mais je pense qu'on peut transformer le matériel en spirituel. D'accord ? Effectivement, en fait, le côté matériel en spirituel, c'est un peu le sujet dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mais, en fait, il s'est mis à avoir un objectif qui a été un objectif qui n'a plus rien à voir, en fait, effectivement, avec son service divin, avec le fait d'avoir sa maison qui tourne bien, avoir à manger à la maison, etc. Non, 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 non. Là, il s'est fait ses kiffs. Alors maintenant, on va se dire, alors quoi, on n'a pas le droit d'acheter une Maserati? C'est interdit par la Torah d'acheter une Maserati. On ne doit absolument pas avoir ça comme objectif s'il n'y a pas techniquement une raison de le faire. D'accord? Je suis un banquier, si j'ai pas une belle voiture et j'arrive avec une petite voiture qui fait top, 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 top chez mon client, ça risque de pas trop bien se passer. D'accord? Donc je peux avoir besoin d'une belle voiture. D'accord? Donc là, je dis, la voiture fait partie de mon outil de travail. J'habite dans un lieu où la moyenne, c'est d'avoir une Mercedes. Et toutes les familles ont ça. Et là, donc, je peux avoir effectivement une question de dire, bon, je vais pas non plus, mes enfants vont me voir avec mon petit taco, ça va pas être bien par rapport à l'ensemble de l'environnement. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, je peux avoir une voiture. Je dis ça, attention, chaque question de ce genre-là, moi, ce sont des sujets dont je parle avec un rave. Je me suis acheté, à un moment, j'avais un petit top, 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 top. Enfin, on a un minibus aussi, mais c'est ma femme qui a le permis. Mais on avait une petite voiture pourrie, mais vraiment pourrie. Et je lui dis, ça roule parfaitement. Ça, je lui dis, ça arrive, je vais aller de là à là, je prends la voiture. Et à un moment, j'avais une question de savoir si je devais m'acheter une autre voiture. Et voilà, ben je me suis assis avec un rave, et à la fin, ça a été oui. D'accord? Il y a eu raison, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, je me suis acheté une voiture, je me suis acheté une Mercedes, mais en tout cas, je me suis acheté une petite voiture. Mais tout ça, en fait, ça doit avoir pas un objectif matériel, d'accord? L'objectif, c'est pas je vais engranger de l'argent dans ce monde, mais c'est je vais réussir à accomplir mieux ma vie grâce à ce que je suis en train de faire. Pareil, en fait, il y a le Rambam continue en fait sur ce sujet-là. En disant que alors je vais vous le lire. Amadiasmo al pire foi. Imsa la libo chez Kol Gufo ve Varav Shlemim Bilvad, ve chez Yelo Banim ve aussi Melarto ve Amelim les Sorko, Enzo derer Tova. Donc celui qui en fait fait en sorte à bien se comporter dans sa vie et avoir une vie, on dit Bari en Israël. Faire les choses comment, saines, voilà, saines. Si dans sa vie, le seul objectif, c'est qu'il ait des enfants pour qu'il fasse le boulot, c'était comme ça avant. Les gens avaient beaucoup d'enfants parce qu'ils avaient leur terrain, leur terre, et ça leur permettait de mieux exploiter, la terre, et ce genre de choses. Avec mis les sorco, Ezo der Tova, c'est pas une bonne derrière. Et là, Yassim al-Libo, chez Yegoufo Shalem Vechazak, il doit effectivement se dire. Quand il va avoir une vie saine, qu'il veut avoir son corps chalem complet et fort, pour qu'il puisse avoir l'esprit serein pour pouvoir connaître Dieu. D'accord? Pour pouvoir étudier, pour pouvoir vivre sa vie, etc. Parce qu'il ne peut pas en fait devenir, améliorer sa sagesse s'il n'est pas en bonne santé. Donc il va dire, moi je veux avoir une bonne santé, pas pour effectivement, bien mieux bosser et aller voyager plus et faire le tour du monde pour faire plus de business. Non, je dois avoir une bonne santé pour être meilleur et acquérir plus de sagesse. Ve'yasim al libo sheyelo ben, ou là yeh chacham gadol be'Israël. Et quand il veut avoir un enfant, il doit se dire, ça va pas être un petit fermier, ça va être un chacham gadol be'Israël. Nimsa me'aler bederer zo kol yamav oved et Hashem tamid. Quelqu'un qui vit comme ça. On voit que donc il sert Hachem en permanence. Afilou vesha'ash et nosé ou noten, même pendant qu'il fait du commerce, va filou même quand il a des relations avec sa femme ou avec son mari, va filou vesha'ash et ou yoshen, même quand il dort. Quand im yashan le da'at kedeshet anouar da'ato ala, ve yanouar gufo kedeshelo yechale, ve lo uchal avod et Hachem ve uchole, im sa shena shelo avoda l'makom baruchu. Si il va dormir en se disant je dors pour pouvoir mieux étudier demain et mieux vivre ma vie de juif demain, effectivement, même son sommeil s'appelle servir Dieu. D'accord? Servir Dieu dans le sens je suis en train d'accomplir ma mission sur terre, je suis en train de profiter, de faire quelque chose qui a l'air 100% matériel, mais je suis en train de faire ce qu'on appelle la Avodat Hashem. Toutes tes actions doivent être l'Hechem Shamaim. Dans tous mes sentiers, tu vas me connaître et tes voies seront droites. Voilà, bon. Ça, ce sont des halakhot, d'accord? Et c'est, en fait, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir ça à l'esprit. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à apprendre ces choses-là il y a quelques années, comme je l'ai expliqué, finalement, je me suis mis à vouloir faire des mitzvot tout le temps et à prendre des décisions de ma vie en fonction de ça. Je veux décider où je vais habiter, je vais décider où je vais habiter, pas en fonction de où je vais pouvoir acheter la plus belle maison, la plus grande avec la meilleure piscine, mais aussi où est-ce que je vais avoir la meilleure école pour mes enfants, où est-ce que je vais avoir la meilleure synagogue où je vais pouvoir prier, où est-ce que je vais avoir la communauté qui va me permettre d'avancer, d'accord, de devenir meilleur et de m'améliorer, etc., etc. Au final, l'ensemble des décisions de la vie, on va les prendre avec cet état d'esprit. Au lieu de les prendre avec un objectif purement financier. Ah, je vais m'installer à Savion parce que je vais être le voisin du fils de Shimon Peres et là-bas, je vais pouvoir faire plus de business. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a un sujet aussi, et je vais arrêter, après vous allez sans doute avoir des questions, mais je peux parler encore des heures et des heures sur ces sujets. On a un sujet qui est un sujet, ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. D'accord ? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a un sujet qui est le plus grave, enfin, dans l'Ilchot Tshuva, le Rambam, dans les lois de la Tshuva, le Rambam parle du jour de Kippour. Il dit qu'il y a une seule chose qui n'est pas pardonnée le jour de Kippour, c'est le Chilul Hashem. C'est la profanation du nom divin. La profanation du nom divin, c'est, pour simplifier, les gens vont dire, regarde ces juifs, soi-disant peuple de Dieu, regarde ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'on appelle Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est exactement le contraire. C'est regarde ce juif, waouh, il m'impressionne. On a en fait dans notre vie, en permanence, des occasions. Donc le Chilul Hashem, c'est la avéra la plus grave, qui n'est pas pardonnée à Kippour. Et le Kiddush Hashem, c'est la mitzvah la plus importante de la Torah. Le Sha'arei Tshuva dit Chilul Hashem oncho le ma'ala mikol averot. Sa punition est la plus grande de toutes les averot. On a en permanence, dans notre vie professionnelle, l'occasion de faire du Kiddush Hashem. Évidemment, on a l'occasion de faire du Chilul Hashem. On a l'occasion de faire du Kiddush Hashem. Moi, je vais vous parler positivement. D'accord ? On ne va pas parler de ce qu'on ne va pas faire. Je pense que vous avez compris où je vais en venir. Mais on a la possibilité, effectivement, de montrer que notre mode de vie est supérieur. Supérieur, on n'est pas là en train de faire un concours, un montré de sport, mais en fait, est meilleur que mode de vie standard, un mode de vie sans Torah, un mode de vie sans sagesse juive. On a par exemple, il y a une personne qui s'appelle Yossi Heber, c'est l'ancien directeur marketing, le vice-président marketing de Danone, et c'est un juif orthodoxe, donc il a le même look que moi aux États-Unis. Directeur marketing du groupe IAC, AIC, c'est la boîte qui détient Expedia ou des gens comme ça. Lui, c'est pas un rigolo. Et il a écrit, en fait, il a dit, voilà, on a un objectif permanent, effectivement, de faire du Kiddush Hashem dans notre travail. Voilà comment les règles que je me suis fixées pour y arriver. Et vous allez voir que c'est assez simple. Il dit qu'il faut être gentil avec les gens. Ça paraît dingue, quand même. Être spécialement gentil. D'accord ? Quand on est au travail, on peut être l'emmerdeur de service. D'accord ? Pour être poli. On peut être la personne qui est toujours à râler, la personne toujours triste. Moi, j'avais une de mes sociétés, celle qui a failli se faire acheter par Google dont je vous ai parlé. À un moment, donc, on a eu un problème et la société est un peu partie en vrille. Et à un moment, on a décidé de fermer. Et j'avais une assistante là-bas qui me voyait avec le sourire. Elle me disait, Jérémy, je ne comprends absolument pas. Comment tu peux sourire ? Alors, elle me dit, mais on a tout perdu. C'est des années de travail, etc. Je dis, mais pourquoi tu veux que je ne souris pas ? Elle me dit, non, mais regarde, on a une épreuve et ça va être très dur et ça, on ne va pas retrouver de boulot, et etc. Je vais vraiment, tu ne vas pas retrouver de boulot ? Je dis, moi, je te dis, tu retrouveras du boulot dans 3 jours. 3 jours après, elle avait un boulot. Je n'étais pas prophète, mais au final, n'importe quelle épreuve, on peut la vivre avec effondrement, en disant, je suis un sale type, Dieu veut me punir, veut me faire plein de choses, ou alors se dire, ok, on est en train de passer à la prochaine étape de la vie. D'accord ? Et là, donc il faut être sympathique. D'accord ? Il faut être sympathique. Ça fait partie des choses qui se font du Kiddush Hashem. Les gens voient un juif qui sourit tout le temps, d'accord? Ou une personne respectueuse des mitzvot qui sourit tout le temps. Eh bien, il va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose là-bas. Je comprends pas, tu râles pas. Non, je râle pas, je suis content de la vie, c'est beau. Non, mais on a des difficultés, on a ci, on a ça. Première chose. Et évidemment, et la personne qui la plus sympathique, qui complimente les gens, qui raconte des blagues, propres, cachères, attention. On a un vrai problème dans le monde orthodoxe. Pour il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler à Tel Aviv. Et en fait, elles me parlent beaucoup en me disant le problème qu'on a, ce sont les blagues. Les blagues crues des collègues. Elles disent c'est impossible. Et donc elles reviennent en disant il faut avoir des entreprises, Bnei Brak. Bon, il y en a plein qui sont ouvertes maintenant, mais c'est un vrai sujet. Il faut faire du travail de qualité exceptionnelle. D'accord? Ne pas se dire mon patron ne paye pas assez, donc je vais faire à peine ce que j'ai à faire. Non, 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 rien à faire. Moi, je vais être le meilleur. Moi, je vais foncer, je vais faire bien mon travail, je vais faire aller jusqu'au bout des choses, etc. Il faut être constant dans sa religiosité. Si on dit, moi, je veux mon Shabbat. Alors, en Israël, on a Shabbat automatique. C'est trop facile. Trop facile, même les fêtes et tout, c'est trop facile. Avant, c'était une épreuve. C'était beau d'avoir cette épreuve en France. Pardon?
Pour venir.
Pour venir. Oh oui, on est très bien, Baruch HaShem. Bon, maintenant on est aux 35 heures. Maintenant, vous savez, on a Shabbat automatique aussi en France. Hein, à part les fêtes, pas mal de choses. J'ai écrit un article sur mon blog pour aller voir sur le Shabbat. Donc, il faut être constant dans sa religiosité. Si nos collègues nous voient dire « Tu es religieux uniquement pour partir plus tôt le vendredi après-midi, pour avoir des semaines de vacances de plus, ou des semaines de vacances au moment… » Par exemple, vous savez, les Pessah tombent toujours à la clôture des bilans chez les comptables, chez les experts comptables. Vous connaissez ça? Vous imaginez pas, dans les cabinets où il y a deux populations juives et non-juives qui travaillent ensemble, vous imaginez pas le stress des collègues qui voient leurs collègues en disant « Allez, bye, on revient dans 10 jours ». C'est très chaud. Si on ne travaille pas normalement en Cholamouet, ça, on va en parler. Aussi, il ne faut pas travailler en Cholamouet. On revient dans 10 jours. C'est très, très chaud. Donc, il faut être constant dans sa religiosité et ne pas montrer qu'en fait, le judaïsme, c'est juste « Je mange kasher ». Je pars plus tôt, je suis pas avec vous pendant les soirées, je fais plein de choses, etc. Mais montrer qu'en fait, que quand on embrasse la religion dans son intégralité, en fait, on est vraiment quelqu'un de meilleur. Et je vous dis, finalement, c'est pas que je me considère comme meilleur, mais je vous dis que les discussions que je peux avoir avec les gens avec qui je travaille, on avait par exemple, vous connaissez le groupe Prisma. Je sais pas, vous connaissez. J'ai dîné à Tel Aviv avec l'ensemble du board de Prisma, d'accord? Donc tous les patrons de Prisma. C'était Prisma ou un groupe d'assurance, je ne sais plus. Bon, en gros, c'était une grande entreprise. C'était Prisma ou Cover, je ne sais plus. J'ai fait plusieurs fois des dîners comme ça. Et à la fin des dîners, on a parlé de plein de sujets qui n'étaient pas seulement business, d'accord? Et à la fin du dîner, ils me disent, on n'a jamais eu un dîner aussi intéressant. On en a marre de parler toujours d'affaires, des startups et de la French Tech. Je suis l'ambassadeur French Tech ici en Israël. On en a marre de parler de tous ces trucs. On a parlé de sujets intéressants. On a commencé. Là, on avait analysé l'addiction à l'Internet, etc. Mais de manière très fin. On avait analysé aussi le féminisme dans l'entreprise. Enfin, tout le sujet homme-femme dans le monde des affaires. Et voilà, ça a été génial. Et je peux vous dire, tous ces gens-là restent en contact maintenant en permanence. Je parle de gens qui ne sont pas juifs. Ils sont en permanence avec moi parce qu'on a parlé de ça. Et moi, j'ai juste transmis des valeurs de Torah dans ces histoires-là et de la réflexion de Torah. Pareil, donc être religieux, la quatrième point, c'est être religieux et me montrer que nous sommes une personne normale, sympathique et amicale. Bon, ça peut faire. Donc, comme j'ai expliqué, on peut parler politique, demander des nouvelles de la famille et des collègues et pas rester dans son coin. Être quelqu'un dont on aime la proximité et étudier et améliorer notre spiritualité en permanence en dehors du travail, ça c'est le sixième conseil qui demande justement pour arriver à tout ça. En arrivant à faire tout ça, en fait, on est aussi dans le monde du travail en train de faire du Kiddush Hashem en permanence. Le sujet, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va faire une parenthèse sur ce qu'on appelle la Emouna, la foi. D'accord? Le bitachon, la confiance en Dieu. D'accord? Il y a une Gemara dans Maseret Nida qui dit une chose. Je vais le prendre par cœur, donc je vais le dire, ça va être plus simple. Qui dit qu'avant la naissance d'un homme, d'une femme, il y a un ange qui s'appelle Laïla, qui vient devant Dieu et qui pose trois questions à Dieu. Et qui montre l'embryon, il dit une goutte, devant Dieu, et qui pose trois questions. Il dit, est-ce que cette goutte sera riche ou pauvre? Est-ce qu'elle sera gibor ou chalash, fort ou faible? Est-ce qu'elle sera chacham ou tipesh, intelligente ou bête? On va dire comme ça. C'est trois questions qu'elle pose. La Gemara là-bas demande, elle dit, et est-ce qu'elle va demander, est-ce qu'elle est tzadik ou racha? Et là-bas, la Gemara répond, non, c'est akol bide shamaim, chutz mirat shamaim. Tout a été défini par Dieu, sauf la crainte de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un seul moment, une seule chose qu'on a à faire dans notre vie, c'est effectivement d'avoir, de suivre ou respecter, oui ou non, la Torah. Tout le reste, d'accord, la Torah dans tous les sens dont je vous ai parlé aujourd'hui, bien sûr. Tout le reste est défini à l'avance. Et je peux vous dire que d'expérience, donc moi je suis associé à 300 entreprises, plus de 300 entreprises. Je suis associé avec des, je travaille avec des milliardaires. Je peux vous dire, les milliardaires ne sont pas plus intelligents. Je peux même vous dire que certaines fois ils sont très bêtes. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de lien entre la sagesse et la fortune. Vous voyez des gens qui ont réussi pour des raisons absolument incroyables, des coups de chance. Vous avez des gens qui ont tout pour réussir. La grande école, la bonne famille, le bon réseau de relations, etc. Et qui se plantent en permanence, se plantent royalement. Et en fait, je me rends compte réellement que les efforts ne sont pas proportionnels aux résultats. Et on s'en rend compte, nous tous, d'accord? On va aller travailler comme des dingues. Moi, par exemple, j'ai travaillé comme un dingue sur la fameuse société Seplandé. On a travaillé beaucoup sur un truc. Bon, on a gagné, on n'a pas gagné grand-chose, d'accord? Quasiment rien. Et j'ai pu gagner en faisant une rencontre de 10 minutes plus que 5 ans de travail. Chose comme ça. Je ne vous ai pas dit, je suis aussi, pour vous connaissez, en fait, je suis cofondateur d'une dizaine d'entreprises et je suis cofondateur de Litchi. Donc, si vous connaissez les cagnottes Litchi, voilà. Donc, je suis cofondateur avec Céline. J'ai jamais mis les pieds au bureau. J'ai juste conseillé Céline. Et voilà, on a vendu à Crédit Mutuel. Donc, ça fait partie des rencontres rapides qui rapportent plus que plusieurs années de travail. Et donc, en fait, ce qu'on a dans notre vie, finalement, c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est effectivement de décider si on va être droit ou pas droit. Si on va faire la volonté de Dieu, on ne va pas faire la volonté de Dieu. C'est la seule chose. Tout le reste, on peut courir après. L'autre, il court après sa Maserati. Il va courir, courir, courir. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'effectivement, il en aura 12. D'accord? Parce que, mais c'était déjà prévu. Il n'aura pas besoin de travailler autant. Ce que je suis en train de dire, il faut faire attention. On n'est pas en train de dire les bras croisés, la fortune va venir ou des choses comme ça. Il faut aussi se dire qu'à Rosh Hashanah, on dit, on demande, on prie pour la Parnassa. À quoi ça sert de prier pour la Parnassa et pour les revenus si Dieu a défini ça avant? Il y a plein de réponses à l'ensemble de ces questions, d'accord? Mais on va prendre les choses simplement, d'accord? On n'a rien qui... si on travaille normalement, le résultat n'est absolument pas dépendant de nos efforts. Et voilà. Donc ça, c'est un peu la conclusion de tout ce que je voulais dire ce soir. On a en fait... Je vais vous donner des exemples très rapides de tous les sujets sur lesquels on peut avoir on a des halakhot de Torah, d'accord? On a un sujet qui s'appelle onar, c'est la fixation des prix. Vous fixez un prix, et ben, vous ne pouvez pas fixer le prix de n'importe quoi que vous voulez. Vous ne pouvez pas fixer n'importe quel prix. Si vous vendez quelque chose qui est vendu à côté plus de 16,6% plus cher, et qu'il n'y a pas de bonne raison à ce que vous soyez plus cher, il y a un problème. Il faut étudier les lois dans le détail, mais il y a un problème. Fixation des prix. Ces lois-là n'existent pas dans le commerce européen, dans le commerce international. En France, vous allez dans un magasin, vous payez un objet trop cher, bah, ok, il fallait vérifier sur Amazon. D'accord? Donc, il y a le sujet de Anna. Il y a le sujet de payer les salariés, les fournisseurs à temps. Il y a le sujet de prêt à intérêt. Il est interdit de prêter à intérêt à un juif. Ça, ce sont les seules lois, et je précise les seules, où la halakha diffère entre juif et non-juif. Sur tous les autres, le vol, tout ça, ben, personne, on vole personne. Tout ça, c'est personne. Entre les juifs et non-juifs, il y a la seule chose qui peut être différente, c'est qu'à un non-juif, on peut prêter à intérêt et on peut emprunter à intérêt. Avec un juif, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais j'emprunte, je vais acheter ma maison et j'ai une mashkenta avec 4% de ribite. Comment ça marche? Effectivement, aujourd'hui, et vous ne le savez pas, en général, vous ne le savez pas, mais il y a un contrat qui est fait entre les rabbanim et la banque pour transformer en fait votre prêt en un investissement. Pas dans le détail, mais en fait, on a le droit de faire un investissement, de prêter de l'argent à quelqu'un pour qu'il monte une affaire et effectivement prendre une partie des bénéfices. De la même manière, quand une banque vous prête pour un bien immobilier, elle vous aide à acheter un bien, donc vous allez économiser votre loyer et vous allez en plus, en général en Israël, le vendre plus cher plus tard. Donc elle participe à ça et c'est pour ça qu'elle a le droit de prendre de l'intérêt. Sinon, une banque juive n'a pas le droit de vous prêter de l'argent si quelque chose reste à prix fixe. D'accord? Ça, c'est les lois d'intérêt. C'est des lois gigantesques, ces lois d'intérêt. Parce que ça ne concerne pas uniquement des grandes transactions. Ça concerne aussi quand vous allez acheter votre frigo. Si, par exemple, vous arrivez au magasin et le vendeur vous dit c'est 12 000 shekels. Pardon. C'est 12 000 shekels si vous le payez cash et c'est 15 000 si vous payez en tachoumim. Ça s'appelle ribit. D'accord? Vous avez. D'ailleurs, on appelle ça ribit. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'accepter la proposition de payer à 15 000 shekels. Dès qu'il vous donne deux prix, vous n'avez plus le droit d'accepter la proposition à tachoumé. D'accord? Il y a des moyens de le faire. Techniquement, il y a un moyen de faire ce genre de transaction de manière cachère. Mais si on ne connaît pas les lois, en général, ça ne passe pas. Les lois de Ribbit, juste pour faire peur un peu, le Talmud dit que c'est les gens qui font du business avec du ribbit ne se relèveront pas à la résurrection des morts. Juste ça, d'accord? Juste ça. Moi, j'ai étudié pendant 2 ans, 2 ans et demi, ribbit, quasiment tous les jours pendant la semaine. C'est un grand sujet. Bon, j'ai étudié en profondeur pour bien comprendre l'arrière, mais il y a des livres aujourd'hui qui parlent de ces sujets et qui peuvent vous donner des conseils là-dedans. Voilà, il y a le vol de son employeur. Il y a un sujet, par exemple, il y a une Mishnah qui dit que il faut dormir tôt le soir quand on travaille. Parce que si on est fatigué le lendemain et qu'on travaille mal, ben, on vole son employeur. Ça s'appelle du vol. On a le fait aujourd'hui, on peut se dire, bah, tiens, enfin, très souvent dans les entreprises, on va aller piquer des feuilles du photocopieur pour aller donner ça aux enfants, ou les trombones en disant, c'est pas grave, je vais prendre ça pour autre chose. Je vais prendre mon smartphone. Le smartphone, c'est un vrai, vrai gros problème. Je vais utiliser mon smartphone, je vais être sur WhatsApp toute la journée alors que je suis censé bosser, etc., etc. S'il n'y a pas de règles définies avec votre patron, ou si vous êtes le patron, il n'y a pas de règles avec vos employés, il faut fixer ces règles. D'accord? Il faut fixer, est-ce que, effectivement, j'ai le droit d'utiliser, de relever mes mails toutes les 5 minutes, mes mails perso, est-ce que je n'ai pas le droit de le faire, etc. Si vous ne le faites pas, vous rentrez dans un modèle de vol. Dans un sujet de vol, et le vol, effectivement, ça veut dire qu'après, il faut rembourser votre temps, etc., etc. Il y a un sujet, et là, je m'arrête, parce que, enfin, bon, il y a le sujet des poids et des mesures, évidemment, il ne faut pas tricher sur les poids, mais bon, aujourd'hui, on a moins le problème. On a un sujet qui s'appelle la Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, c'est, par exemple, je ne peux pas vendre à un non-juif de la viande soi-disant cachère, alors qu'elle ne l'est pas. Pourtant, lui, ça ne change absolument rien pour lui. D'accord? Je ne dois pas lui faire penser que je suis en train de lui rendre un service. Donc, moi, il arrive, je suis le boucher, et je dis, voilà, regardez la super rue, je vous donne la meilleure viande cola, la meilleure viande cola. Alors que moi, je sais très bien que c'est celle que j'allais mettre à la poubelle, parce qu'elle n'était pas cachée. Je n'ai pas le droit de faire ça. Un exemple de Gneva Da'at, c'est par exemple, vous êtes invité au mariage de votre cousine à New York, et vous n'avez pas du tout envie d'y aller, et vous ne comptez pas y aller. Et là, opportunité, vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit, il y a un contrat signé à New York, même date, parfait. Et donc vous dites, super, j'en profite pour aller chez la cousine. J'arrive, vous arrivez, bon, vous signez votre contrat, super, ça se passe bien. Et vous arrivez chez la cousine et la cousine vous regarde en disant, oh, tu as fait le voyage pour moi, merci beaucoup. on dirait, bon, on va la laisser dans sa joie, d'accord? Et en fait, non, il est interdit de faire ça. Il est absolument interdit de faire croire à quelqu'un qu'on lui rend un service alors qu'on ne lui rend pas de service. Dans les gens qui travaillent dans le Forex font ça régulièrement en faisant croire que je propose un bon investissement et je suis en train de vous aider, on est tous copains, etc. Alors qu'au final, la personne est en train de perdre. C'est beaucoup, beaucoup plus grave que ce que je suis en train d'expliquer. Mais imaginez juste, rien que l'histoire de la cuisine, ça s'appelle la Gnevat Da'at. Vis-à-vis d'un non-juif, le Gnevat Da'at est plus grave que le vol. Le fait de le tromper son esprit. D'accord ? C'est le Rambam qui dit ça. Voilà, c'était. Il y a plein d'autres sujets. Et donc, je vous ai donné un moyen de creuser l'ensemble de ces sujets. Mais comme je l'ai expliqué, il ne faut pas voir ça en fait comme des contraintes. Il faut voir ça en fait comme des opportunités de faire des mitzvot du matin au soir. De la même manière que quand on va faire ses lacets, donc on va faire une mitzvah chaque jour. Donc chaque jour, on va, en général, peut-être on fait deux fois ses lacets par jour, si on les fait mal. En tout cas, on a deux chaussures, donc au moins deux fois. Ça fait 700 mitzvot par an. Fois 10 ans, ça fait 7000. C'est pas mal, juste pour ses chaussures, d'accord ? Donc imaginez si vous arrivez après, dans n'importe quelle interaction avec votre épicier, vous arrivez à en rajouter une petite dizaine, etc., etc. Voilà, c'était le sujet dont je voulais vous parler ce soir. Je suis à votre disposition pour les questions.
J'en ai une. Deuxième question, bonsoir. Deuxième question qu'on nous pose là-haut, c'est combien de temps on a étudié,
Non, est-ce que j'ai fixé du temps pour mon étude?
Ma question, c'est...
Il n'y a pas écrit combien.
Vous avez beaucoup bossé, vous avez sûrement beaucoup étudié. Comment on peut savoir c'est combien de temps le Zman qu'il faut? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est deux heures? Est-ce que c'est 10 heures? Quand on a un cerveau, on peut travailler, faire beaucoup d'argent, faire 300 sociétés partenaires. On aurait peut-être pu en faire que 50 et passer plus de temps à étudier. Qu'est-ce qu'il peut nous dire?
Voilà, super.
Je suis dans le bon...
Super. Alors, il faut voir que quand j'investis dans les 300 sociétés, je travaille à mi-temps. D'accord? Donc, moi, j'étudie 4 heures par jour. Le niveau. En fait, quand on a la valeur du temps, on travaille beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement. Parce qu'en fait, on n'est pas là en disant bon, je vais faire ma journée. D'accord? Je suis là pour. Il faut que ça transforme, comme on dit. Alors, il ne faut pas non plus être trop stressé par ça et trop pressé à ce que les choses se transforment, parce que ça marche. Ce n'est pas nous qui contrôlons tout. Mais en tout cas, c'est une super question. Il faut, en général, travailler le moins possible. Et il faut que le travail soit fonction de ses besoins. D'accord ? Ses besoins, c'est quoi ? C'est effectivement se nourrir, se loger, prendre des vacances. Et pareil, comme l'a expliqué le Rambam, si par exemple j'ai besoin de prendre l'air et aller dans le nord, ça fait partie des Avodat Hashem. D'accord ? Donc, je vais définir en fait le niveau de vie dont j'ai besoin pour bien vivre. D'accord ? Essayer d'enlever les caprices de ça, c'est pas toujours... Il faut savoir que, par exemple, pour dire que la Torah n'est pas en train de dire les caprices ne sont pas... doivent être complètement mis de côté. Quelqu'un qui était riche et qui avait un cheval, d'accord, à l'époque, c'est comme ça que parle la Gemara. Et avait un... Dans la Gemara, on dit qu'il y avait un monsieur qui était riche, il avait un serviteur qui courait devant son cheval en permanence. C'était comme ça que les riches faisaient, ils avaient le serviteur. S'il est devenu pauvre... Nous, Gabaïs Daka, la communauté, doit l'aider à avoir son cheval et son serviteur devant. On doit lui remettre son statut. On dirait, mais c'est quoi ce caprice? Non, c'était sa manière de vivre. Et il vivait comme ça. Et c'est comme ça qu'il vivait. On se rend bien compte que dans notre environnement, on peut avoir des gens qui ont des standings complètement différents. Moi, je vous dis, je vis avec des milliardaires qui achètent des œuvres d'art, qui me disent... Tiens, j'ai acheté à 10 millions, on m'a proposé 30 hier. Non, mais je veux faire une meilleure plus-value. Vous savez, on a plein de choses. On vit tous dans une galaxie différente, finalement. Donc, chacun doit définir d'abord qu'est-ce que c'est d'avoir une bonne parnassa. Une parnassa qui convient à ses besoins. D'accord ? À partir de là, il faut fixer un temps, de toute façon, qui est au minimum, moi je pense, c'est au minimum une heure par jour. D'accord ? Et essayer de grappiller en permanence sur ce temps. Moi, j'avais commencé avec une heure par jour il y a 15 ans, d'accord ? Commencé avec une heure par jour. Et après, je me suis dit, tiens, mais j'arrive à 9h30 au bureau, mais si j'arrive à 10h30, ça ne va pas changer grand-chose, puisque les clients ne sont pas encore réveillés, on ne peut même pas les appeler ou n'importe quoi, etc., etc. Et au final, on fait en sorte à aménager du temps par-ci, par-là. Moi, j'ai mon voisin qui est une des plus grandes fortunes d'Israël, pèse 1 milliard et quelques. Il est à 4h30 du matin, on est ensemble au Beth Amidrash, avec 400 personnes. Il est là, d'accord? Donc, il se lève le matin. Le soir, à 7h, il est reparti au Beth Amidrash pour aller étudier, d'accord? Il a fait sa journée, etc. Il est parti étudier. Et en fait, il essaye de grappiller en permanence le maximum d'heures qu'il peut. Évidemment, le maximum d'heures, on n'est pas là pour uniquement étudier, on est là aussi pour s'occuper de sa famille et de ses enfants, ce qui fait partie pareil de la tâche. Donc en fait, c'est tout un ensemble de. Il faut que tout soit. Qu'il y ait une cohérence, oui, on va dire. Ou, non, il y a un autre mot que je cherche, je commence par un S. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Équilibre, super, voilà. Je pensais que c'est E. Un équilibre en tout. Voilà. Mais effectivement, il faut se dire, effectivement, voilà, il y a match de foot tous les jours, je suis fan de foot. À un moment, est-ce que je ne dois pas me demander si je ne dois pas réduire ma consommation de foot? D'accord. Ce qui est un des plus gros problèmes que peut avoir un fan de foot. Je plaisante pas, hein, on rigole de ça, mais c'est la vie, d'accord? Un fan de foot a un vrai problème à réduire, surtout quand il y a Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de ci, plein de choses. C'est très dur de réduire ce genre de choses. Donc après, on ne lui dit pas, mais tu arrêtes à 100%, effectivement, il va dire, bah, tiens, tu vas suivre que la finale. Va faire ce... voilà. Mais donc en fait, c'est un objectif d'aller grappiller en fait des temps, mais ce que dit la question, c'est Kavata Itim. Est-ce que tu as fixé des temps? Il faut que ces temps soient réguliers. C'est pas uniquement à chaque fois que j'ai du temps, je prends un livre. Là, je vous dis, ça marche pas. Moi, j'y arrive pas. Et c'est, j'ai mes heures. Pendant ce temps-là, le téléphone est coupé. Mes enfants savent que je suis en train d'étudier. Je suis au Beth Amidrash. Je suis à un endroit où, même si je suis à la maison, je suis avec une travouta, etc. Et ce moment-là, ces heures ne bougent pas. Et je vous prends l'exemple que j'ai donné. J'ai parlé il n'y a pas longtemps. Il y a Manuel Valls qui est venu en Israël il y a 8 mois. Il voulait que je fasse ce discours de bienvenue, son ambassadeur French Tech. Et ça tombait un dimanche matin. Dans le dimanche matin, j'étudie, donc j'ai dit non. D'accord? Donc il fallait que je choisisse entre le discours de Manuel Valls ou Mouloud. Il n'y avait absolument aucune raison que j'accepte Manuel Valls. Et là, alors je peux vous dire que l'ambassade est devenue, les gens de l'ambassade sont devenus fous. D'ailleurs, ils se sont fait un pari entre eux, on va le faire craquer. Donc ils sont venus de tous les côtés. Mais Jérémy, en plus après, il y aura un super repas, 100% cachère. Mais Adrine, on t'amène au super resto. Je lui fais regarder. Même si Obama arrive et veut un tête-à-tête, c'est non. Et parce que si, en fait, on commence à dire oui à ce genre de choses, c'est infini, en fait, les opportunités d'abandonner son étude. Et c'est pour ça que la question, elle ne parle pas de la durée, elle parle de la fixation. Je fixe, je bouge pas. Et ça, c'est quelque chose
Si je
d'important.
compte bien, comment ça 4h30, 4 heures d'études, ça fait 8h30. 8h30,
Non.
c'est démarrage du
Non.
truc normal pour nous, quoi.
Non, ouais, mais ça peut arriver. Moi, je travaille en plus avec Londres, ils ont 2 heures d'écart. Mais je travaille à 4 heures, je commence à 4h30, je finis à 7h, je prie au milieu. Après, je reprends à 9h jusqu'à midi. Et là, je démarre. Mais on peut faire comme vous dites aussi. C'est juste que je vois mes enfants au milieu et j'essaie de les amener à l'école ou voilà,
J'ai une
organiser.
question. En fait, quand on, par exemple, je prends l'investissement immobilier, quand on investit, c'est dans le but aussi de gagner de l'argent. Et voilà, pour la revente, ou enfin, c'est pas très bien en fait,
Bah,
en
non,
réalité.
non, mais j'ai pas dit qu'il faut pas gagner d'argent. Attention, j'espère que vous n'avez pas compris
Non,
ça. Non, j'ai pas, il n'y a pas de
non,
problème. Il n'y a
je
pas
l'ai
de
pas entendu
problème.
comme ça.
Non, mais.
Je l'ai pas entendu comme
Non.
ça, qu'il fallait pas, que c'était pas bien d'argent,
Non,
du
mais
tout.
il n'y a aucun. Voilà, moi maintenant, quand je vais faire cet investissement immobilier, je vais gagner de l'argent et je vais pas me dire, ok, je gagne mon. Moi, je dis, je vis avec des riches qui ont tout et qui peuvent acheter tout ce qu'il y a sur Terre. D'accord? Et qui continuent à courir après l'argent. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle le score de leur vie. Comment je peux dire si j'ai passé une bonne journée? Bah, c'est en fonction de mon chiffre d'affaires de la journée, de ce que j'ai gagné. D'accord? Nous, en fait, le Rambam et l'ensemble des Rabbanim et la Torah depuis toujours, on n'est pas, on n'a pas un objectif d'enrichissement permanent sans but, dans le but d'améliorer le compteur ou de rentrer dans le classement Forbes. On n'a pas ça. Si maintenant, moi, je dis, regarde, j'ai des opportunités de m'enrichir. Et j'achète ça et tout ce que je touche, je transforme en or. J'ai quelques amis où ça se passe comme ça. Et au final, je vais être un grand philanthrope. Et c'est vraiment des philanthropes de bon cœur et des gens qui font les choses bien. Pas de problème. J'étais avec un ami la semaine dernière. Il donne 300 millions de dollars par an aux enfants juifs. 300 millions de dollars. Enfin, ils sont associés à quelques personnes. D'accord? Quelqu'un qui travaille, cool.
En fait, c'est donner une justification.
Justification. Mais après, il ne faut pas non plus se dire « Oui, 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 je cours pour aller faire de la Zdaka et je vais me casser ma vie. » Il y a eu un article qui est paru dans Yediot Acharonot en Israël qui parlait des start-upers qui avaient mis leur start-up et leur entreprise avant leur famille. Et ils étaient tout fiers de dire, il y avait le patron d'une boîte cotée en bourse, une grosse boîte israélienne très connue, vous voyez plein de voitures avec le nom, qui disait « Ma femme a compris que je devais l'abandonner. » Parce que ce projet est trop important et maintenant elle est très fière de me voir, de voir l'entreprise fleurir en bourse. Je dis, mais quelle bêtise! C'est incroyable!
Commun dans ce mode de fonctionnement.
Ouais, mais ça. Mais, on a mis l'entreprise et le succès financier, on l'a mis en objectif numéro un. D'accord? Pas le bonheur qu'on peut avoir avec son. Bon, après, s'il ne s'entendait pas avec sa femme, il a trouvé une excuse, c'est un autre problème. Mais non, ça que après la question c'est quel est l'objectif. Comme je le dis, si c'est pour faire du chesed, il peut faire du chesed, mais à un moment, comme je le disais, c'est l'équilibre et il faut que tout soit en symbiose, toutes les choses ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui, c'est des questions qu'on a en permanence de se dire, est-ce que là ce que je fais c'est pas trop? Est-ce que là, moi personnellement par exemple j'ai beaucoup d'opportunités de faire des affaires aux États-Unis et donc de voyager, et quand je voyage, donc c'est une semaine, et après je reviens, il y a le jet lag, je suis un peu truqué, etc. Donc en gros, ça perd 10 jours avec ma famille. Bah, je n'ai pas mis les pieds aux États-Unis depuis 7 ans. Je sais que c'est un vrai problème. Maintenant, peut-être on va me dire, ouais, mais t'es fainéant, Jérémy, tu pourrais faire plus, etc. Je fais, non, moi, ma famille, c'est plus important. Et, bon.
Moi, ça me parle beaucoup, ce que vous dites, mais j'ai le sentiment qu'en fait, notre économie, elle est fondée sur le fait de vouloir toujours plus et de pas justement du tout chercher l'équilibre mais chercher le plus. Et puis pareil, ça m'a parlé ce que vous avez dit par rapport au fait d'aller en rendez-vous client et de pas se dire mon but c'est d'avoir un contrat mais mon but c'est d'être quelqu'un de bien. Mais j'ai le sentiment que la société est tellement fondée sur l'inverse que je me dis, si on commence à écouter ça, on arrive sur une autre forme d'économie en fait.
Ouais, mais on peut complètement faire partie, et je suis l'exemple, faire partie du même univers. Je vais vous dire pourquoi en fait l'économie fonctionne différemment. L'économie fonctionne différemment, c'est qu'en fait toutes les entreprises ont besoin de croissance pour justifier leur valorisation boursière. On parle des grosses entreprises. Sans croissance, on ne peut pas justifier une augmentation de valeur. Une croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis Michelin et je vends chaque année le même nombre de pneus, ce qui est à peu près le cas, hein, chez Michelin, je prends un vrai exemple, eh bien, il faut que je trouve un moyen de générer plus de bénéfices et pour aller faire la chose. Donc, au final, je suis en permanence en train de faire le travail de l'investisseur boursier. Et c'est effectivement ce que reprochent tous la gauche, qu'on appellerait la gauche, les communistes, les anticapitalistes, etc. Et ils ont raison. C'est cette loi des marchés qui va aller en fait dire « Michelin, vous avez plein de la boîte fonctionne bien et fait plein de profits, mais il faut que ça monte, donc je vais licencier 150 personnes ou 1500 personnes. » Effectivement, le monde ne travaille pas, ne fonctionne pas de cette manière. Donc nous, on est là au milieu, dans la jungle, et on est là pour faire notre bonne chose au milieu, être les bons du milieu. Et je pense qu'en fait, notre modèle, s'il fait bien, il va plaire à tout le monde. Il est censé plaire à tout le monde. Il est censé plaire aussi aux capitalistes qui aiment l'argent, parce que nous aussi, on peut aimer l'argent, on peut aimer avoir une belle voiture, avoir un bel appartement, avoir des choses, etc. Il y a, comme j'ai expliqué, si on a un vrai besoin de le faire, on peut le faire. Mais d'un autre côté, on n'est pas là à penser qu'un employé, c'est la même chose qu'un stylo Bic. D'accord ? Donc, si ça ne va pas, je jette. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit appliquer. Mais donc, effectivement, le marketing, par exemple, il y a deux manières de faire du marketing. Il y a tricher, avoir un produit pourri et essayer de le vendre de la manière, en mentant sur les bienfaits. Ou alors, on peut se casser la tête. Au lieu de se casser la tête dans le marketing pour vendre un produit pourri, on peut se casser la tête à faire un super produit qu'on va aller vendre. D'accord ? Et ça, c'est deux manières de voir les choses. Dans le monde des startups, en général, on est plutôt à aller faire des bons produits parce qu'on sait que ça ne passe pas. D'accord ? Mais on peut avoir la même tendance. Je vais mettre du budget en marketing, je vais vendre un produit qui est déceptif, etc.
Même par rapport à soi, je trouve qu'il y a beaucoup cette. Moi, je travaille dans une start-up et je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de se faire mal pour son
Et du coup, c'est, enfin, je trouve que c'est un gros paradoxe.
Se faire mal, c'est-à-dire que, comme je disais, on ne doit pas gâcher ses ambitions. D'accord ? Je veux avoir un projet. On en parlait avec Ethan tout à l'heure de. On doit faire bien son travail. D'accord ? On doit le faire bien. Si j'ai un projet, je veux qu'il arrive bien, je veux que ça réussisse, je veux que ça fonctionne. Effectivement, après, comme on dit, après, il faut que la parnassa soit constante. Il faut que. Voilà, on est là pour faire des choses bien. Mais le projet n'est jamais l'objectif. On est toujours derrière en disant je suis en train de faire ça parce que le monsieur qui a la Maserati n'est pas encore marié. Il va peut-être se fiancer dans quelques années. Enfin, c'est la Maserati l'objectif pour l'instant. Le mariage, c'est pas le. Donc voilà. Donc nous, on est là en fait pour toujours avoir un bon objectif à l'ensemble des choses que l'on fait. D'accord ? Et un objectif qui est en général pas matériel. D'accord ? Parce que sa famille, ça, c'est pas du matériel. C'est effectivement ce qu'on va laisser après 120 ans.
Et pas en fonction des principes transcendants de la Torah. Maintenant, pour des gens qui ont 25, 26 ans, qui n'ont jamais étudié, aux enquêtes de Tchouba, et qui sont déjà en fait dans le travail, et qui n'ont pas tant le temps d'étudier, en fait, qu'est-ce que vous conseillez pour justement.
Donner le bâton là. Il faut étudier. Ouais, je répète la question pour la caméra. C'est. Quel est le conseil qu'on peut donner à un jeune qui est déjà dans le monde du travail pour effectivement améliorer sa vie et aller atteindre toutes ces valeurs-là ? Je vais expliquer, on n'a pas le choix en fait d'étudier. Étudier, ça veut dire acheter un livre, commencer à le lire. Il y a plein de livres en anglais sur ces sujets-là, par exemple, si vous lisez l'anglais. Des livres en hébreu, n'en parlons pas. Il y a des organisations à Tel Aviv, comme ici, pour venir étudier aussi ce genre de choses. Il n'y a pas le choix d'étudier. C'est pour ça, vous savez, on a le sionisme, la scala des 100, 200 dernières années, etc. On mis l'État d'Israël, on mis notre culture juive, notre folklore juive en avant de tout, d'accord. Et on est en train de dire, ce sont les religieux qui étudient, d'accord. Nous, avec ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, on est La Torah, c'est juste la constitution sur laquelle on doit tout se baser. Et on n'a pas le choix, finalement, d'aller lire ça. Si vous n'avez pas le temps, vous aurez obligatoirement une demi-heure par jour pour essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas, à moins que je ne sais pas ce que vous faites. Mais il y a moyen de lire 30 minutes par jour. Et si vous avez 30 minutes par jour pour répondre « Kavata et Tim la Torah », oui, j'ai fixé des temps de ma Torah. Je comprends. Est-ce que.
Ouais.
Une phrase. L'étude, il y a l'étude de la Gemara, il y a l'étude de la Halakha. D'accord ? Il y a l'étude de la Halakha. Être dans l'état d'esprit de se dire que ce que je dois faire, je dois le faire de la meilleure manière qui soit, et se poser les questions, c'est déjà être dans le bon état d'esprit. De toute façon, je pense que. Il doit y avoir peut-être quelques centaines de personnes dans le monde qui connaissent tout, la halakhot de tout, d'accord ? Et très très peu. Je vous prends, la plupart des rabbins français ne connaissent pas les halakhot de commerce, d'accord ? Moi j'ai cherché en France par exemple pour essayer de monter une hotline sur ces sujets-là, etc. Très très dur, ils n'ont pas les réponses à l'ensemble de ces questions. Maintenant, un bon rabbin, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la réponse, mais qui sait où la chercher, d'accord ? Et ça en fait, c'est ça qu'on a appris. Moi personnellement, je n'ai pas tout étudié, d'accord ? Je connais pas la halakhot surtout, mais je sais où elle se trouve. Donc quand j'ai des questions, je peux aller chercher ces questions, ou alors je connais le numéro de téléphone de la personne à qui poser. Donc on doit faire ce qu'on peut faire, d'accord. On peut pas non plus en demander trop. On peut pas étudier à plein temps comme un Dayan qui va connaître tous ces sujets. À un moment, il y a 4-5 ans, j'ai voulu arrêter de travailler. J'ai dit, voilà, merci, j'ai des investissements, ça viendra quand ça viendra, j'ai un peu d'argent de côté, allons-y, je veux être Diane. Un de mes rabbins, il m'a dit, Jérémy, pour être Diane uniquement de ces sujets de commerce, c'est 15 ans à plein temps. 15 ans. Il me dit, donc j'avais 35 ans, je dis, voilà, à 50 ans, tu finis. Je dis, t'es prêt? Je dis, ah, quand même, d'accord. Et bon, et pour plein d'autres raisons aussi, il a dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça, je prenne cette décision. Mais c'est gigantesque, c'est une mer. Mais notre vrai sujet, c'est de se dire, à chaque fois que j'ai une vraie question, je vais pouvoir la poser. Et au final, quand on étudie un peu, on commence à comprendre l'état d'esprit en fait, de la halakha. Et on commence à deviner après à quel moment on va voir. Vous avez là, par exemple, les différents sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui, d'accord, en vous citant quelques minutes, le ribbit, etc. À un moment, quand vous allez vous retrouver avec le mot ribbit quelque part, vous allez peut-être vous dire, ah tiens, je me rappelle qu'il y a quelque chose. Là, pour le moment, je vais passer un coup de fil et je vais essayer de savoir ce que je dois faire. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de tout connaître, mais on doit savoir à peu près tout ce qui existe en hauteur. Et après, on va étudier les sujets. Enfin, je vais même vous dire pire. J'ai étudié ribbit donc pendant 2 ans et demi. Je suis en train de le refaire en ce moment parce que j'ai oublié la plupart des choses que j'ai étudiées. D'accord ? Les cas pratiques, les cas le plus pointus, etc. Ce matin, pardon, j'ai étudié ça. J'ai étudié si maintenant vous êtes locataire d'un appartement. Enfin, voilà, vous faites un contrat de location et on vous dit, voilà, c'est 5000 shekels par mois. Mais si vous payez tout en avance, les 12 mois à l'avance, non, enfin, le mois au début de mois, c'est 4000 shekels. Est-ce que ça veut dire que vous payez plus cher la fin du mois, donc vous payez, le prix normal c'est 4000 shekels et vous payez plus cher la fin du mois, donc le fait d'avoir attendu la fin du mois, vous payez 1000 shekels de plus, c'est du rebit, c'est de l'intérêt. Ou alors non, c'est la réponse, hein. La réponse c'est non, effectivement, il y a deux prix différents en fonction du moment de paiement. Je ne rentre pas dans le détail de pourquoi, mais c'est à la fin, quand on a bien compris la théorie, c'est très précis. Mais voilà, c'est ce genre de sujet. Et en permanence, on repasse. On repasse et on repasse et on repasse. Et on repasse. Mais dès qu'on est, on est dans l'esprit de se dire on veut connaître ces lois et on veut faire le bien, Dieu nous envoie en permanence, effectivement, le bon livre, la bonne chose, etc., qui va nous faire entrer dans cet état d'esprit.
Les femmes, elles peuvent étudier ou tout ça?
Il faut.
Les femmes.
Elles peuvent étudier.
Oui,
étudier.
Elles peuvent, mais enfin,
je ne sais pas si ici, il y a des centres d'études pour
études,
femmes.
Ouais. Femmes.
Voilà, les centres d'études.
Pour les femmes, il y a
pas.
Ah, mais en France, vous allez trouver, hein, on peut trouver, en France, vous allez trouver. Mais.
Voilà.
Non, c'est, il faut trouver. En France, j'en ai en train de chercher, en train d'organiser des sujets comme ça. C'est un des points. Il n'y a pas assez de conférences ou de sujets pour mixtes. C'est un sujet qui n'a rien à voir avec homme ou femme. La seule chose qu'une femme n'étudie pas, c'est le Talmud. D'accord ? C'est comme ça dans l'Halakha, c'est comme ça qu'il y a Mekoubal, etc. La Halakha, si une femme est concernée par cette Halakha, elle est obligée de l'étudier, sinon elle emprunte. Donc ça fait beaucoup, beaucoup à étudier. Mais il y a énormément de livres. Hein. Il y a énormément de livres. Sur mon blog, le dernier article que j'ai posté, c'est justement tous les livres juifs, en anglais, en français, je crois en hébreu aussi, sur tout le monde des affaires. Donc, sous une sélection de plein de livres. Vous allez voir, il y a tous les sens. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle businessalacha.com, dont je parle aussi là-bas. Businessalacha.com, c'est justement des gens qui parlent que de ces sujets-là, mais vraiment dans le détail. Vous avez une newsletter que vous pouvez recevoir toutes les semaines avec des cas. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça vous explique tous ces sujets. Aux États-Unis, ils ont énormément pris en compte ce sujet-là. En France, tout ce sujet de Rosh Hashanah Midpat est très peu connu. Même dans le monde des rabbins, etc. C'est pas le truc qu'on étudie à l'école rabbinique, vous voyez. Voilà, aux États-Unis, c'est voilà, les hommes d'affaires sont tous voilà, il y a beaucoup beaucoup d'orthodoxes, beaucoup de trucs, et ils sont en permanence confrontés à des problèmes.
Une question qui me vient là comme ça, hein, ouais. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous étudiez comme ça, que c'est personnel ma question, je sais pas, que les choses vous viennent comme ça, avec autant de. Ben, on est toujours impressionné, Jérémy Bérébis, et on en entend parler.
Ah, ouais, alors ça, c'est la Emouna. Alors ça, c'est
ça,
le.
Ça me vient comme
moi, il y a eu, moi, depuis
est-ce
que je suis.
Que c'est le...
Depuis que j'ai 19 ans, je suis dans les médias tout le temps. il y a des choses qui se passent. On me présente en serial entrepreneur. Mais bon, je suis serial entrepreneur. Je suis investisseur, j'investis dans plein de trucs. Voilà.
C'est aussi dû à
c'est, ce... Au début, j'étudiais pas. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étudiais pas comme ça. Mais Dieu m'a mis que j'ai été médiatisé et je suis toujours médiatisé. J'essaie de limiter au maximum. Mais on a chacun un rôle. On a un rôle. Mon rôle aujourd'hui, c'est de transmettre. Et donc, j'ai besoin d'avoir une aura pour ça. D'accord ? C'est la seule chose que... Moi, à Vnebrak, les gens ne savent pas ce que je fais. Bon, certains ont compris maintenant, c'est chaud. Et parce que moi, quand j'étudie, je ne veux pas qu'un mec me présente sa start-up. Donc, il faut quand même que ça... Donc, en général, les gens ne savent pas. Mais donc, je me cache. Mais à l'extérieur, je profite de cette aura qu'on m'a donnée, justement, le Shem Shamaim, pour transmettre ces choses-là. Mais... C'est des milliards, ouais, ça.
Ouais.
15 milliards.
À chaque fois, on ressent une très très grande fierté. Et la dernière fois, quand tu as fait mon conseil, tu dis à Marie, waouh, quel kidouche Hachem.
De, à disparaître, parce que c'est israélien.
Ouais, et il m'a dit, mais quel rapport.
Mobileye, c'est un très bon exemple. Non, mais Mobileye, alors je vais vous dire. Je vais vous dire Mobileye, pourquoi. Sur Mobileye, je pense que c'est une des seules startups où vous avez raison. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça sauve la vie des gens. Et que, les entrepreneurs, bien que non religieux, ont en permanence, en vrai, véritablement voulu sauver la vie des gens. Et à un moment, ils ont eu Tesla en client qui a commencé à faire un peu n'importe quoi avec leur technologie, à prendre des risques. Ils ont décidé d'arrêter le contrat avec Tesla, parce que ça prenait des risques pour la vie. Donc oui, c'est effectivement, on peut dire qu'effectivement, il y a un kiddush Hashem dans le sens où effectivement, regardez, ces juifs, ils ont inventé une techno qui sauve des vies du matin au soir. D'accord ? Donc ouais, ça peut marcher. Ouais,
gagner du temps.
Gagner du temps. Bon, là, c'est un peu moins. Après, c'est pas à nous de juger quel est le truc, mais ouais. C'est-à-dire que après maintenant faire du, on est les leaders du casino en ligne, ça marche plus. Quand j'ai parlé, on parlait du forex avec des journalistes de The Marker et tout ça ici. Je disais, oh, Jérémy, tu sais, on n'est plus à ça près. On est leader du casino, du X, du truc. Enfin. Voilà, en Israël, il y a tous ces trucs, donc on n'est plus à ça près. Quoi. Voilà, c'est un peu la réaction. Là, on a de quoi avoir peur. Moi, quand j'ai eu cette réaction-là, j'ai eu de quoi avoir peur. Donc voilà, nous, on est là pour. On est chacun d'entre nous, on est là pour redresser la barre. Qui choisit ? On l'a fait en ordre de droite à gauche, parce qu'il faut de pied droit. Vas-y.
Justement, par rapport à cette question, quand vous influencez, vous parlez avec des gens qui ont des milliards à investir dans des sociétés, est-ce que vous les influencez pour investir dans des sociétés cachères ou vous avez un rôle là-dedans?
Ah ouais, complètement. Enfin, c'est pas ça, c'est que j'influence. Un, je leur amène que des opportunités cachères, 100%. Et effectivement, je les dissuade. Bah, y a eu un moment, il y a eu une histoire d'options binaires. Il y a 6 mois, quelque chose comme ça, et bon, j'ai tout fait exploser en vol immédiatement. J'étais très fier. Et il y a eu une autre boîte, il y a une autre boîte israélienne aussi qui est dans la publicité, qui fait des choses qui pour moi sont mauvaises. Et j'ai complètement cassé un deal qui faisait 500 millions. Et ils ne veulent pas me voir. Et à un moment, ils m'ont dit, bon, Jérémy, rencontre-les quand même. J'ai dit, bon, ok, je la rencontre. Ils me disent, non, Jérémy, on sait qu'ils ne nous aiment pas du tout. Le deal est cassé. Voilà. Qui ça, les milliardaires ?
Ouais, les milliardaires.
Non, je pense que ça influence au fur et à mesure. Ça met un genre de réflexe, de attention. Ils ont beaucoup une éthique hein, quand même, ça, ces gens-là. Surtout, moi je travaille par exemple pour les milliardaires russes qui ont une très mauvaise réputation, la pire réputation des hommes d'affaires. Et eux, en fait, veulent effectivement montrer que ce sont des gens bien, etc. Donc, comme moi je leur montre à chaque fois qu'effectivement il y a un risque que ça soit eux, en général. Ouais. Pas tous, mais certains. Mais c'est pas que pour les juifs, hein, le sujet cachère, hein, le sujet business cachère. Vous savez que les non-juifs ont aussi 7 lois. Et l'une des 7 lois, c'est le fait de ne pas voler. Et ne pas voler chez un non-juif, le montant est encore inférieur à celui d'un juif. Bon, en détail, on parle en quelques centimes de trucs, mais On dit très très vite, on peut rentrer dans le problème du vol. Donc, si moi j'aide un non-juif à voler, j'ai enfreint moi-même ce qu'on appelle l'interdiction de l'Ifné Iver, le Titan Mirchol. Et donc là.
Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces startups, ou toutes ces entreprises en tout cas, qui se font racheter par les Américains et qui parfois ou souvent demandent, enfin, disent aux Israéliens qui sont là, voilà, vous gagnez tant ici et vous venez à la Silicon Valley, on vous installe. Voilà,
c'est une question sioniste pour Yom HaSmaout.
Voilà. Non, mais voilà, donc beaucoup se disent ici, on gagne pas très bien notre vie ou pas bien notre vie, ou c'est dur en Israël et surtout beaucoup d'Israéliens, pas forcément ceux qui viennent ici par sionisme.
Très bon, très bonne, j'ai compris la question.
Voilà. Ouais.
Est-ce que pour quelle bonne raison on a le droit de quitter Israël? On va la résumer comme ça la question, finalement, parce que est-ce qu'on n'a pas le droit de quitter Israël? D'accord? Le rabbi de Lubavitch n'est jamais venu en Israël parce qu'il savait que s'il venait, il n'avait plus le droit d'en sortir. On a trois raisons pour lesquelles on peut sortir du pays. C'est la parnassa, l'étude et pour trouver une femme ou un homme. C'est les trois raisons. Donc, si effectivement on a un problème de parnassa en Israël et qu'on nous propose de gagner mieux à l'étranger, en étant dans un business kasher, en pouvant manger kasher, en ayant ses enfants dans des écoles de Torah, là, a priori, ça va marcher. Ça fait partie de c'est une question qu'on doit poser à son rav en général, d'accord?
Beaucoup de rabbins disent qu'au contraire, il faut venir en Israël coûte que coûte, que c'est le moment de venir. Enfin,
Moi,
pour aucune raison, il faut ne pas.
Moi, il y a l'idéologie de dire le Mashiach arrive demain matin, ça fait 2000 ans que c'est dur, d'accord? Donc, on doit suivre la halakha. La halakha est très précise sur le sujet de est-ce qu'on doit vivre en Israël ou pas, d'accord? Je vous ai donné les trois critères. Après, on doit fixer en fonction de ça. Après, idéologiquement, est-ce qu'il vaut mieux souffrir ici ou être là-bas en ayant un meilleur d'affaires, comme je l'ai expliqué? C'est un chicoule. À chaque fois, c'est un chicoule. Beaucoup de gens sont ici en disant, ben, on va faire du forex, on va faire tous ces trucs-là. Et en disant, au moins, je fais de la Sdaka, et en plus, j'ai offert un Sefer Torah, et en plus, je suis en Israël. Comment je serais en Israël s'il n'y avait pas ça? Je dis, ben, ne sois pas en Israël, c'est très bien. Il n'y a aucun problème, au contraire, on pourrit Israël en faisant ça.
Non, ma question était évidemment qu'on est quelqu'un de cachère ici.
Tout à fait. Mais non, donc voilà, donc après c'est le chicoul. Si j'ai une parnassa suffisante, la question n'est pas uniquement entre Israël et l'étranger. Elle est en Israël et Israël. Je suis dans une entreprise et on me dit je dois déménager à Haïfa et donc changer l'école de mes enfants alors que mes enfants sont dans une super école et ils sont contents et ça se passe bien, etc. Il y a pareil, on aura le même chicoul. On va se poser les mêmes questions. C'est les bons, ça c'est les petites épreuves qu'on a toute notre vie, c'est les petites questions. Moi j'adore quand je me trouve à des moments comme ça, parce que c'est là où en fait on doit faire jouer ce qu'on appelle le Da'at Torah. C'est là où on doit en fait avoir des discussions avec des rabbinim. Je me suis assis pendant 2 heures cet après-midi avec, je crois que vous connaissez Yankel Abergel. J'étais 2 heures chez lui à la maison sur sa petite terrasse. C'est son appart très sympa. Et on a parlé, j'ai un projet et je voulais échanger avec lui, etc., pour avoir la date de quelqu'un qui est là-dedans. Bon, il est parti dans tous les sens. Mais voilà, je parle avec des rabbinim pour essayer de peaufiner ce genre de décision, des décisions qu'on prend. C'est accessible à tous. Hein. Ce n'est pas Jérémy Béhabi qui parle avec la Berger. N'importe qui veut parler à des rabbinim, veut s'asseoir avec des rabbinim, etc. Il y a plein d'endroits, il y a plein de lieux, il y a plein de gens. Voilà, ça, il faut juste savoir comment y accéder.
J'étais venu... trois questions au départ. Ouais. Vous avez répondu aux deux premières. La première, c'était comment vous faites pour tout en rire.
Tout en rire? Ah là, ouais, j'ai répondu. C'est le point numéro 1, je me force.
La deuxième, c'était sur le marketing. Vous avez répondu aux trois questions. Et la troisième, il y a une grande partie de votre réussite qui réside dans le fait que les gens se surconnectent, se connectent tout le temps, etc. Vous avez mis des tickets dans beaucoup de startups qui ont réussi ou qui ont mieux réussi parce que les gens sont tout le temps connectés. Mmh. D'un autre côté, vous prêchez le fait de se déconnecter et d'arriver à donner un plan de souillard pour chaque tâche. Alors je veux savoir comment personnellement vous vivez cette dissonance.
Ouais. Alors la question, je répète la question, c'est comment j'arrive à investir dans des startups qui font perdre du temps et en même temps dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Alors quand j'ai commencé à créer des startups et à investir dans des startups, je ne savais pas qu'on allait devenir accro à ce point. D'accord. Soit on ne l'était pas encore, soit on ne le réalisait pas encore. D'accord. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Facebook démarrait en même temps à peu près. Il n'y avait pas de réseaux sociaux où on était une trentaine, donc ça allait très vite, hein, la lecture du feed. Il n'était pas infini. Maintenant, il est infini. On n'y avait pas cette addiction. On ne voyait pas le problème. Il y avait un problème d'Internet, c'était le problème du contenu, les sites contenus problématiques, d'accord. Moi, j'ai un Internet filtré à la maison, donc un fournisseur d'accès à Internet s'appelle Rimon. Il y a Etrog, Rimon, Netfree en Israël qui filtre Internet pour accéder uniquement à des choses cachées, avec plusieurs niveaux. Mais on pensait que c'était le contenu d'Internet qui posait problème. On ne se rendait pas compte qu'on était en train de créer une machine où on allait s'auto-tuer. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'était en 2012. Je m'en suis rendu compte quand j'étais sur Facebook. J'avais mes 5000 friends presque à l'époque. Et ma fille tape à la porte de mon bureau et veut me parler. Et j'étais en train de répondre à un truc sur Facebook qui était absolument nul. Et je dis, chérie, j'ai pas le temps. Et là, elle est, ah bon papa. Elle est partie. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai appelé Rav Ben Chetrit, à qui je suis très proche, Rav Yechiel Ben Chetrit, et je lui ai dit, regarde, j'ai un problème. Sur Facebook, il y a plein de gens qui me suivent, j'écris des trucs de Torah, j'écris des trucs, etc. Beaucoup de gens ont contact avec moi via Facebook. D'un autre côté, ça y est, je sens que c'est infini, je perds trop de temps. Et donc, on a discuté comme ça pendant un quart d'heure, peut-être une demi-heure, et la conclusion, ça a été que je quitte Facebook. D'accord ? Et vous pouvez retrouver en ligne mon post d'annonce de l'époque. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est de pire en pire. Les gens s'en rendent compte maintenant. J'étais à Londres il y a un mois. J'étais dans une bibliothèque. Il y a une magnifique bibliothèque à Piccadilly. C'est avec des vrais livres et tout. Et une immense, sur 5 étages, comme à l'ancienne, la plus grande librairie d'Europe. Et là, j'ai passé 3 heures là-bas. C'était super. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres qui sortaient maintenant sur ces problèmes-là. Il y a un livre qui s'appelle On Off, je ne sais pas quoi. Il y en a un qui s'appelle Irrésistible. Qui sont en fait sur tous les problèmes de effectivement l'addiction à la technologie. Donc en gros, moi je ne me suis pas rendu compte de ça. Je ne me suis pas rendu compte que ça allait faire ça. Non, parce qu'on n'espérait pas. Quand on lance. Moi je suis fondateur d'une boîte de jeux. Et on a lancé un jeu. Alors c'est pas moi qui ai lancé ce jeu-là, c'était pas l'idée de départ, mais on a un jeu que la société a lancé, ça s'appelle Song Pop, qui a été utilisé par 100 millions de personnes. Je ne sais pas si vous connaissez Song Pop. Ah, donc on est cofondateur de Song Pop, on s'est retrouvé à faire ça. Et on a eu 100 millions d'utilisateurs et effectivement on a eu le succès est parti, on ne s'attendait pas du tout à ce succès là etc. On ne s'attendait pas que ça allait devenir si énorme, etc. Effectivement, dans notre système on est censé faire jouer les gens, d'accord, et les gens doivent on leur fait acheter des crédits pour pouvoir pour répondre plus vite à la question, un peu comme qui veut gagner des millions, je crois, un truc comme ça. Et à un moment on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelle les whales. Les whales, c'est les baleines dans le monde du gaming. C'est les baleines, ce sont des gens qui sont en général des pauvres personnes, des gens qui sont des professeurs, des retraités, etc., qui vont dépenser tout leur argent dans ce genre de jeu. Et la question qui a été posée, bon, mes associés ne sont pas juifs, mais c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse rester des baleines ? Est-ce qu'on les laisse dépenser 17 000 dollars par mois en achetant des crédits ? Et regardez ce sujet de Wells Gaming. Allez vous lire les articles sur ça, vous allez avoir super peur. Si vous allez sur mon compte Twitter, parce que je suis encore sur Twitter, bonne raison aussi, vous avez quelqu'un aujourd'hui qui me pose une question. Vous allez sur mon fil, vous allez voir les gens qui me parlent, qui me dit j'ai besoin d'avoir accès à des rabbanim pour aider un tzaddik à sortir de l'addiction des jeux en ligne. C'est la question qu'on m'a posée aujourd'hui. Donc j'ai envoyé mon mail, etc. Et il est censé me connecter. Donc, on n'a pas créé ça. On n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Mais à force d'optimiser, en fait, les différents services, on est arrivé à une addiction qui est maintenant infinie. Le fait qu'on se retrouve tous à table et qu'on soit tous devant notre téléphone, vous voyez, c'est la photo standard qu'on a dans le monde entier. C'est une catastrophe, on ne l'imaginait jamais.
Oui, mais ça devient plus cachère à ce moment-là. Ça crée une
addiction aux gens. C'est un problème. Ça, c'est un autre sujet d'une autre de mes conférences sur l'addiction au à la technologie, effectivement, moi, mon téléphone, je vais montrer. Alors moi, j'ai un Kindle, d'accord. C'est pas connecté le Kindle, donc je lis des textes là-dessus et j'ai mon téléphone qui est quelque part. Je ne sais pas où il est, moi je n'utilise pas. Ah là, il est là. Ça, c'est mon téléphone. D'accord ? Alors, je dis quoi ? Jérémy Bérébi avec ça ? D'accord ? Il vaut 50 euros, c'est comme ça, 250 chèques. D'accord ?
Il faut créer une application pour empêcher de se connecter.
Ça existe. Freedom. Ouais, ça existe. Alors, ça, c'est un autre sujet de conférence. Il y a plein de trucs. J'ai écrit un article sur LinkedIn. Je suis influenceur LinkedIn. Pareil. Tout ça, c'est des trucs. Dieu m'a envoyé des trucs. Pour... Influenceur LinkedIn, on est 600, 700 dans le monde. Les autres, c'est Bill Gates, Carlos Ghosn et tout. Jérémy Bérébi, t'es influenceur. Là, il y a le classement des leaders économiques de demain français qui vient de sortir. Choiseul, donc Figaro Magazine. Je suis 22e. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vous dis, je ne mérite pas. C'est incroyable et je ne fais rien. Les gens ils me disent ouais Jérémy t'es toujours en train de te montrer. Mais je dis mais je ne fais rien. Vous vous imaginez même pas à quel point je fais rien. Et non la caméra c'est pour au moins que des gens profitent de ce cours. Voilà c'est le seul truc. Mais donc voilà donc en fait on a effectivement un truc et aujourd'hui par exemple il y a comme je dis c'est un autre sujet de conférence mais c'est le chef éthique de Google a démissionné. Pour aller monter une association, pour aller pousser les entreprises à arrêter. Mais il fait n'importe quoi parce que les entreprises ne peuvent pas arrêter ça. Les entreprises vivent de cette addiction-là.
Google, ils sont très connus pour être hypocrites.
Oh, c'est la Shonara sur Google, c'est des juifs. C'est des juifs, Google, attention. Il n'y a pas de la Shonara. Voilà. Mais même la Shonara, on veut dire ça.
Je comprends pas la question. L'Europe des clients, c'est pas les juifs. Donc, on n'a pas un moyen de se dédouaner sur ça.
Ah
c'est vrai, c'est la
non ah, par rapport au temps
bah oui,
ah, c'est une super question. Ouais. Non, bah, prenons bien la question. C'est pas comme ce ne sont pas des juifs, alors qu'on peut faire n'importe quoi. Non. On dit, comme nous, on a le temps est important pour nous parce qu'on est censé étudier la Torah. D'accord ? On est censé étudier, on est censé optimiser notre temps en permanence. Un non-juif n'a pas cette obligation-là. Donc, est-ce que c'est un problème qu'il fasse effectivement être passé sur des jeux en permanence? Possible que non. Et je vais même dire autre chose. Depuis que les médias existent, depuis que la télévision prend plus de place dans la vie des gens, les smartphones, etc., il y a moins de guerres. Alors bon, on peut se dire, ah non, mais il y a plein de guerres encore aujourd'hui, mais les guerres se réduisent par rapport à ce qui se passait il y a 100 ans. Enfin, on imaginait, c'était les guerres mondiales, parce que les gens ont moins de temps. Parce que quand on s'ennuie, c'est ça les jeunes qui sont dans la rue qui font des bêtises, c'est parce qu'ils s'ennuient, d'accord ? Plus on a le temps, plus on est occupé à faire des choses, plus on peut faire des choses. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a effectivement de bonnes choses. Maintenant, il y a un problème, je pense, personnel, on a un problème à être dans un business, on est là quand même pour jouer avec l'addiction des gens, d'accord ? Et là, ça pose un problème perso. C'est pas après une question d'Alakha, est-ce que oui ou non tu as le droit de le faire, c'est... Est-ce que tu te sens que tu fais du bien au monde ? Et pardon ?
Faut pas être barman.
Un petit verre, c'est pas grave.
Mais il y a l'alcoolique qui va venir tous les jours et on va pas.
Est-ce qu'on a le droit de servir à un alcoolique en sachant qu'il va tomber malade, etc. C'est une question d'Alakha. Je la connais pas la réponse. J'ai pas été barman. Mais non, mais c'est une question. Est-ce que je peux servir ? Si je sais que quelqu'un va tomber malade, si je lui sers trois verres, est-ce que j'ai le droit de le servir trois verres ? Très possible que non. Ah, si je suis pas au courant, en plus, ça c'est encore autre chose. Si je suis médecin et que la personne va prendre 10 cachets pour s'empoisonner avec, je suis pas responsable. Non, donc, je suis vendeur de couteaux de cuisine, je peux pas rentrer en Israël malheureusement. Voilà.
On va avoir la réponse de l'histoire par rapport à Songpop ou...
À Songpop, c'était la question, c'est... Ah, est-ce qu'on a... Bon, non, ils ont voulu garder les Wells. Ah, elles sont là, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Mais bon, c'est pas... C'est exceptionnel et voilà. Mais il y a toujours des baleines. La vraie question, c'est par exemple dans les gens qui font du casino en ligne, etc., où il y aurait en fait certains Ethereum pour faire du casino en ligne à l'étranger. Il y aurait, je ne les connais pas, hein, d'accord ? Il y a effectivement, si par exemple vous avez ruiné une personne et que la personne se retrouve à la rue, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose ? Pour rentrer dans les détails à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, non, il y a eu les questions. Après, maintenant, la décision, il faut étudier le cas et voir effectivement à quel point... Si quelqu'un vient, vous êtes vendeur de montres et vous avez un client qui vous achète une montre par jour, accro aux montres, est-ce que vous avez le droit de lui vendre ? A priori, oui. Il n'y a rien dans la halakha vous empêche de lui vendre une montre par jour. Même si, au final, derrière, il n'achète plus à manger à ses enfants. c'est pas certain que vous soyez, que vous ayez cette responsabilité. C'est une question hein, aussi. De l'honnêteté. Bah, en général, donc la question, je répète, c'est est-ce que je suis, moi, en investissant, je ne dois pas être responsable de, effectivement, du sujet. C'est un sujet d'Alaha, à quel point on est responsable d'une société. Nous, on ne faisait pas partie du board de toutes nos entreprises. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne fait pas partie du board, c'est ça, pour ne pas prendre de responsabilité sur les actions. Ça ne veut pas dire qu'on va se laver les mains en faisant ça. Mais c'est juste que comme on ne voit pas tout aussi, on ne voit pas tout de l'activité, si le fondateur fait des choses pas très clean et qu'on ne s'en rend pas compte, on n'est pas responsable de ça. Maintenant, on fait très attention à ça. On fait très attention et de toute façon, on essaye de sortir le plus vite possible une société qui ne fait pas des choses droites parce que ça va se retomber sur nous. On a eu une société, on a investi dans un site marchand, on l'a aidé à faire une vente sur vente privée. Ils ont eu plein de trucs. Le patron a utilisé le chiffre d'affaires, il n'a jamais livré les clients. Mais il n'a pas fait ça malhonnêtement, c'est juste qu'il a mal géré ses comptes et au final il n'avait pas d'argent pour livrer. D'accord. Je simplifie un peu le truc. Non, il ne rembourse pas parce qu'il avait dépensé pour les dettes d'avant. Voilà. Là, on s'est retrouvé à nous ressortir dans la presse, par exemple. Donc on a dû expliquer, on a dû faire un communiqué qu'on n'avait absolument aucun truc, etc. Donc oui, il faut faire attention quand même à ça. Moi, je vais vous donner un truc, à quel point il y a des choses, il peut avoir une influence. La grande question de ce Pessah, c'est est-ce que je dois vendre le Hametz qui est dans mes investissements ? Alors moi, franchement, je ne m'étais jamais posé la question. C'est la première année qu'on me dit. J'étais en plein truc. Il y a un des... avec qui j'étudie, qui est un des seuls qui sait ce que je fais. Il me dit, Jérémy, mets les parts. Et là, on est rentré dans un casse-tête parce qu'en fait, les parts, je ne peux pas les vendre sans les proposer aux autres actionnaires. Tadadada, et on rentre dans un problème. Et bon, au final, d'après la plupart des avis, on n'a pas besoin de vendre ses parts, on n'a absolument aucune influence. D'ailleurs, le pain, alors en fait, moi je n'ai pas investi dans un magasin de pâtes, d'accord ? Mais c'est si par exemple la boîte a acheté des biscuits pour les employés dans la cuisine, donc il y a du Hametz là-bas, il m'appartient en partie. Et bon, et l'une des raisons pour laquelle ça ne m'appartient pas, ça a l'air compliqué tout ça, mais au final, voilà, ça m'appartient, ça fait partie d'un patrimoine directement. L'une des raisons pour laquelle non, c'est qu'au final, moi-même, je ne peux pas rentrer dans la société maintenant et prendre un bout du pain, même si je suis actionnaire. D'accord ? Ça appartient à une entité, une société Baham, comme on dit en Israël, une SA, une société, une personne morale, et ça, en fait, c'est déconnecté de nous. Mais voilà, c'est une marloquette et... Oui. C'est le genre de choses qu'on fait, on doit se rendre compte. Moi, il y avait le problème du Revit aussi, du prêt à intérêt. Moi, je suis actionnaire et cofondateur plutôt un premier actionnaire de Prêt d'Union en France, United Credit, plus grand prêteur avec Revit. C'est du pur Revit, le vrai de vrai, crédit à la consommation, etc. Voilà. Bon, ça passe par Xavier Niel, qui n'est pas juif, donc il n'y a pas de problème, etc. Mais voilà, ce sont des questions. J'aurais pu me retrouver en problème si j'étais actionnaire direct. Il y a un problème de... Tout à fait, tout à fait. Je vais vous donner un cas très pratique et où vous êtes tous concernés. C'est le sujet... Enfin, tous ceux qui vivent en Israël. Vous allez faire en Israël. C'est le sujet des Keren, des caisses de retraite israéliennes. Les Koupat Gimel, Keren Pensia, etc. Si vous investissez dans un Keren qui n'a pas un Hersher, une cash-route, vous investissez indirectement dans les entreprises qui travaillent vous pouvez investir dans les sociétés qui travaillent Shabbat, sociétés qui font du Revit, et donc indirectement, vous êtes participé à ça. Donc aujourd'hui, quand vous avez votre Keren, il faut soit choisir ce qu'on appelle un Masloul Alaha, il faut dire qu'on veut ne pas avoir de problème de ce genre, et donc vous avez le Badat Saïda Haredi, de la même manière qu'il y a la cache-route sur les boîtes de chocolat. Franchement, je ne savais pas non plus, avant d'étudier le truc, à un moment, je suis dans un livre, de trucs et je me retrouve avec un chapitre Keren Pensia. Je fais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on n'y pense même pas. Et là, je vois qu'en fait, c'est un sujet énorme. Si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone du Beddin qui gère ça et qui peut vous répondre à toutes les questions. Et voilà. Donc là, vous pouvez vous retrouver effectivement en investissant dans des boîtes qui travaillent le Shabbat avec des Juifs, et etc. Enfin, chaque fois, vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez avoir un problème. Dernière question. En dehors de Bnei Brak?
Non, en grandissant à Bnei Brak.
Ah, depuis Bnei Brak?
Chemin inverse, en fait.
Ouais. Franchement. Mes enfants vivent à Bnei Brak. La plupart sont nés à Bnei Brak. Donc la question, c'est est-ce qu'en fait, en n'ayant pas vécu en fait, les deux mondes, est-ce qu'on arrive à avoir, on peut avoir cette harmonie? Complètement. Il faut savoir que Bnei Brak, il y a la moitié des gens qui étudient, des hommes qui étudient, mais donc l'autre moitié travaille. Donc il y a des grands hommes d'affaires dans l'immobilier, dans les avocats. Il y a plein de choses, c'est-à-dire que c'est aussi une ville de business. J'ai jamais vu autant de voitures de luxe que je suis à Bnei Brak. D'accord ? Ça veut pas dire, c'est pas possible. Alors après, est-ce qu'on a le droit à la Maserati ? J'ai vu une Jaguar, j'ai dit, bon, lui, il a un peu exagéré. Surtout à Bnei Brak. Mais bon, chacun avec ses tendances après. Hein. C'est pas à Bnei Brak, tout le monde ne prend pas les bonnes décisions comme n'importe où. Hein. Et donc en fait, non. En fait, on a ce qui est ce qui est bon à Bnei Brak, c'est qu'en fait, on sait que toutes les questions qu'on se pose doivent être résolues par nos livres. Donc en fait, on a des grandes bibliothèques à la maison, toutes les maisons sont remplies de bibliothèques, on est, etc. Et on est en permanence en train de se poser des questions, est-ce qu'on a le droit de faire ça, comment on le fait, etc. etc. Parce que j'ai une question de mes enfants là, de ces dernières heures, ça en a tout le temps. Hein. J'ai oublié. Bon, c'est en permanence. Vous avez des sujets, par exemple, que vous pouvez avoir avec des amis. Et vous avez 8 amis qui vous demandent d'acheter une part de pizza, chacun. Vous allez chez le marchand, et les 8 parts, chacune, coûtent plus cher que si j'achète un plateau de 10 parts. Pour qui est la 9e part? Bon, vous voulez aussi, il y a une part pour vous, donc vous êtes 9. Et il y a une part qui reste, pour qui est la 10e part? Voilà. Question, c'est... je vais rentrer dans la souga, c'est quelques heures de travail. J'ai passé une nuit de Shavuot sur cette souga-là. Non, mais en fait, ce sujet-là, vous l'avez en permanence. Si vous envoyez un coursier, vous achetez un produit et il va le négocier moins cher, est-ce qu'il a le droit de prendre pour lui la différence ou est-ce qu'elle est pour vous la différence? Vous voyez? Donc vous avez en permanence. Donc ça, c'est le genre de sujet que... C'est une souga en soi de... Ouais. J'ai répondu à la question? Ah, mais donc, il n'y a aucun problème.
Quand vous choisissez d'investir dans une société, une start-up, vous utilisez la Torah, mis à part le fait de savoir si elle cache ou pas, évidemment. Vous utilisez la Torah ou pas?
Non. En fait, je peux utiliser le système d'analyse. C'est-à-dire que moi, quand je discute, j'essaie d'analyser en fait, les failles d'une entreprise, comme j'étudie une page de Gemara, c'est-à-dire le prendre dans tous les cas. Moi, quand je conseille les grandes entreprises, je fais en fait comme une chavruta avec les chefs d'entreprise. D'accord ? Chavruta, c'est quand quand on est à deux. En fait, en général, on étudie le Talmud à deux. On est là en face de l'autre. Ou on peut être en groupe, mais en général, c'est à deux. Et en fait, chacun dit quelque chose et l'autre va en général s'opposer. Et surtout, les juifs ne sont jamais d'accord sur rien. Et donc, au final, on arrive à peaufiner jusqu'à arriver à la vérité. Si on est avec quelqu'un de pas orgueilleux, si on a un orgueilleux en face, on ne peut pas étudier. Enfin, on dit, ok, c'est ça la vérité. Enfin, c'est ça la vraie réponse à ça. Et en fait, on fait ça quand je conseille une des 5 plus grandes entreprises françaises, le PDG, le DG, et plein de gens, etc. Et en fait, on a eu ce système d'interaction. Et je leur ai expliqué, ils m'ont dit, mais attends, mais c'est génial. À un moment, c'était 2 femmes, enfin, en vidéoconférence. Elles arrivent à la réunion. Et avec un sandwich, avec de l'eau, des bouteilles et tout. Je fais, mais vous n'avez pas encore mangé? Je fais, si, on a mangé, mais on a besoin de force pour supporter le choc. Et une autre fois, à la fin, il dit, Jérémy, tu nous as épuisés. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils me disent un truc, je leur dis pourquoi, ils m'expliquent, etc. Enfin, on a toute une interaction. Donc ça effectivement, ça marche très très bien. Et on a, voilà, je peux pas dire quel est le groupe, mais vous connaissez tous 100%, tu connais. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Ah, de l'eau.
Ça va le vent de l'eau.
Ouais.
Bon, on en reprofite pour remercier. Je crois que vraiment, c'est toujours un bonheur. Amen. Toujours un bonheur de te recevoir. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Je répète, je crois que peu de personnes imaginent à quel point notre intervenant de la soirée est quelqu'un d'occupé. Donc, on le remercie d'autant plus. Mais je pense que c'était un sujet qui était important. Évidemment, qu'une des choses peut-être qu'on a voulu parler ce soir, c'était aussi l'importance de savoir qu'il y a des questions, qu'on ne fait pas les choses juste comme ça. Et donc, s'il y a des questions, bon, prochain, on va prendre des réponses. Je vous invite tout de suite, et on va faire quelque chose de très concret, de prendre le numéro. On a une hotline à Tel Aviv de Rav Simcha Buchinger qui répond à toutes les questions de Halakha que vous pouvez avoir. Lui aussi, c'est quelqu'un de très occupé. Et lui aussi répond de jour comme de nuit. Donc, si vous voulez noter ce numéro tout de suite, comme ça, vous avez... voilà, donc si vous voulez, vous pouvez l'appeler n'importe quand. Non, il reçoit pas de texto, il faut l'appeler. 050-050-41-92-031. Tout ça pour appeler Rav Simcha Buchinger à Tel Aviv pour toutes questions dans tous les sujets de Halakha. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que, qu'on a posé la question, il y a de l'étude ici tous les matins. Tous les matins, à partir de 6h30, il y a la tefila, deuxième tefila à 8h10, et à partir de 7h15 jusqu'à 10h. Tout matin, on peut venir étudier. Il y a l'étude ici quasiment tous les soirs. Il y a des cours le mercredi soir à la maison et même des pizzas. Il y a des activités un peu partout. Donc, je vous invite, ceux qui ne sont pas sur les groupes, venez me voir après. Je vous dirai comment être sur les groupes WhatsApp pour recevoir les informations. Dans la liste de diffusion, excusez-moi. WhatsApp, je ne sais pas la différence, mais on m'expliquera. dans la liste de diffusion WhatsApp. Là, je connais WhatsApp, c'est pas mal. Donc, les listes de diffusion WhatsApp, vous venez me voir, je vous dirai comment être dessus. Faites like sur Facebook. Voilà, il y a beaucoup d'événements, donc n'hésitez pas. Vraiment, si vous avez des questions, si vous avez envie d'organiser des cours, entre autres, une des choses qui est très très importante, et je le dis, j'en parle encore cette semaine, est très important notamment, dans l'absolu, notamment pour notre organisation et aux yeux de Ravili Lemel qui chapeaute tout ça, c'est les cours pour femmes. Donc, on a de la chance de vous prochain d'avoir des intervenantes, des gens très très, des personnes très intéressantes, dont mon épouse. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, il y a des cours organisés pour femmes, donc aussi venez me voir, allez voir Joy qui est ici. C'est important, c'était une très bonne question, merci d'avoir posé la question. Il n'y a pas de raison, il n'y a absolument aucune raison que les femmes en sachent moins que les hommes. Donc il y a des cours le matin, il y a des cours le soir, il y a des cours le dimanche, il y a des cours toute la semaine, il y a des cours mixtes. Donc voilà, profitez-en, la structure est là, à vous de l'utiliser, de l'essorer. Merci beaucoup, Jérémy. Il y a des pizzas qui sont là, Chodesh Tov. Pour ceux qui veulent, juste après les pizzas, on organisera Arvit là dans une petite dizaine de minutes pour ceux qui veulent. Merci.